Bonsoir à tous. Ce soir, on va parler bien sûr de la Ligue 1. On va pas revenir sur la journée Ligue 1 qui s'est déroulée hier et avant-hier. On y est revenu lors des différents débats after, mais on va plutôt débattre sur le PSG qui a battu le FC Sochaux-Montbéliard hier soir à Bonal, 4-1. Lyon, on va parler de Lyon et de Bordeaux, cette lutte qui s'engage entre les deux pour le titre. On va aussi parler de Monaco avec Hugo qui a, malgré la défaite samedi à Bordeaux, qui impressionne en ce début de saison et qui est la très très bonne surprise. On va aussi finir par la Ligue des Champions et l'Europa League. Oui, on a des clubs qui jouent en Europe. On a Marseille, Bordeaux, Lyon, Toulouse et Lille. On va tout de suite parler de ça avec, il y a tout d'abord, Fabien.
Bonsoir.
Salut Fabien, on a Hugo. Salut
Bonsoir.
Hugo.
Bonsoir.
Pas de là? Ah, dommage. Salut Julien.
Bonsoir à tous les mecs.
Il y a Rognetto.
Bonsoir.
Et pour finir, Yak. Salut Yak.
Bonsoir.
On a bien sûr Flo qui nous permet de faire cette conversation grâce à Fibre Optique et Dan aux manettes. Donc, je vous rappelle à tous que vous pouvez réagir. N'hésitez pas à réagir dans le topic réaction aux émissions ou même encore plus simple avec le chat. Voilà, il est juste à côté du player dans la partie radio. Vous tapez votre message et hop, ça sera sûrement lu à l'antenne. Donc voilà, on passe tout de suite au premier sujet de ce soir, premier débat. Le Paris Saint-Terding, comme je l'ai renommé, quel beau jeu de mots digne des titres de l'équipe.fr. Donc, Erding, l'attaquant turc Erding est vraiment essentiel au PSG cette saison, ça se voit, il a encore marqué hier. Le PSG sans Erding, c'est 3 points sur 15, avec lui 13 sur 15. On voit la différence. D'ailleurs, le PSG a peut-être trouvé son schéma avec Erding en pointe dans un 4-2-3-1, laissant peut-être Ovaro qui est plus en odeur de sainteté à Paris sur le banc. La peur d'Erding dans le collectif parisien, je pense qu'il est indiscutable, on est tous d'accord là-dessus, mais on va plutôt s'interroger sur le PSG qui est-ce qu'il est suffisamment armé avec le retour d'Erding pour lutter à l'avenir finir sur le podium de la Ligue 1. Votre avis, messieurs, Rognetto, qu'est-ce que t'en penses? Toi, on sait que t'es habitué à ça, t'es supporter du TFC qui a été une des équipes surprises de Ligue 1 en finissant troisième il y a 3 ans. Qu'est-ce que t'en penses de ce PSG-là qui vient donc de retrouver Erding?
J'ai envie de me venger vu qu'on nous a saoulé l'année dernière avec Gignac, dépendance, tout ça, Erding dépendance au PSG, voilà. Donc t'avais les chiffres, ça veut pas dire grand chose, vu que 12 journées, il a été blessé les 3/4 du temps. Mais bon, de toute façon Paris c'est pas trop tôt, même si c'est pas un début de saison très flamboyant, au moins, y a eu un bon recrutement, même s'ils ont recruté qu'un seul joueur, et ça se voit que ce joueur, il a été recruté, et sans lui, son équipe elle peine à gagner et à marquer des points, donc tant mieux pour eux qu'ils aient retrouvé un bon joueur. et voilà quoi. Moi, Paris, voilà, qu'ils soient bien placés ou pas, ça me fait mi-chaud mi-froid, mais c'est bien qu'ils soient en confiance et qu'ils arrivent à se mettre dans le haut du classement pour l'image de la Ligue 1.
Ouais, tu parles de Erding. On peut aussi parler de Cessegnon, qui hier, pour le coup, jouait enfin, comme on en parlait, je crois que c'était il y a 2 semaines.
En 10, ouais. Il a joué en 10.
En 10.
Ouais.
Franchement, il y a toujours du déchet dans son jeu, mais quand il est lancé, quand il se met face au jeu, il est vraiment, vraiment très fort. Il crée des décalages très intéressants. Mm. Et voilà, moi je pense que si Cessegnon eh bien, toute la saison est régulier, Paris peut jouer le podium. Surtout que, pour le coup, ils jouent pas de Coupe d'Europe. C'est sûrement la seule équipe prétendante au tableau avec peut-être Rennes, qui joue pas de Coupe d'Europe. Donc, moi, je pense que c'est possible, ouais.
D'accord. Donc tu es de l'avis que le PSG peut jouer ce podium. Tu les situerais en dessous, quand même, de l'OL et de Bordeaux?
Ouais, bien sûr. D'accord. Bien sûr.
Oui, quelque chose.
Ils ont moins de, ils sont moins, comment dire. surtout par rapport à Bordeaux, tu sens quand ils maîtrisent le ballon, quand il s'agit de faire le jeu, ils sont pas super tranchants, mais à côté de ça, ils ont des attaquants qui sont assez vifs, qui ont un assez gros volume de jeu. Et sur des coups de butoir, comme on a pu le voir hier, ils ont pas été extraordinaires dans le jeu. Bon, même s'il y a eu la paire de Sochou qui était pas franchement terrible, mais sur quelques coups, ils sont vraiment vraiment très forts devant.
Oui, avec Harding. Et moi, je suis pas forcément d'accord avec toi concernant les capacités du PSG à tenir toute cette saison. Mais quand on y réfléchit bien, à part Bordeaux, à part Lyon, qui fait figure de valeur sûre pour monter sur le podium cette saison, bon, on voit que Marseille a beaucoup de mal, peine à trouver une bonne tactique, un bon système de jeu. Et donc Paris, moi je pense que Paris peut profiter de ses failles et pour viser le podium. Après, est-ce que Erding va se blesser? Est-ce que Erding va tenir ce rythme tout au long de la saison? Est-ce que le PSG va se débrouiller lorsque Erding sera pas forcément en bonne forme ou en méforme? C'est une autre question, mais moi je suis globalement d'accord avec toi. Donc je pense que le PSG a donc un coup à jouer dans cette Ligue 1, notamment sur le podium.
Ouais, c'est ça. C'est bon, a priori Bordeaux et Lyon sont au-dessus. Donc bon, ça serait sûrement pour la troisième place. Et bon, être troisième, c'est à la fois être dans les meilleurs, mais ça veut aussi dire être dans les moins mauvais. Donc, par défaut, ouais, moi je pense qu'ils peuvent jouer la troisième place.
Oui, Fabien.
Bah moi je vous trouve assez optimiste parce que faut pas oublier que Paris, il restait, je crois, sur 3 ou 4 matchs sans victoire et que hier, bon, le score est peut-être un peu flatteur. Ils ont ouvert le score. Bon, on va pas non plus débattre sur le penalty, mais ils ont été assez chanceux, ça les a mis en confiance. Après ils ont déroulé, mais je sais pas, ça reste quand même une seule victoire depuis je crois le mois de septembre, donc les voir troisième directement, je pense qu'il y a des équipes qui séduisent un peu plus pour le moment. Et
alors, on dit pas qu'ils vont finir troisième, on dit que c'est possible qu'ils peuvent jouer cette troisième place.
Une réaction d'Edouard qui reprend ce qu'a dit Yac en disant que lui aussi il croit au PSG, même si offensivement ça reste moyen avec Wingdula qui est trop irrégulier, Ouaro qui se montre en deçà du niveau de l'an dernier où lui-même Edouard le trouvait déjà un peu surcoté. Après Erding, il trouve que c'est du haut niveau, mais ils en seront dépendants. Il croit aussi beaucoup en ses signaux, mais au final il a pas progressé autant qu'on le pensait. Ah, j'ai mal lu, excusez-moi. Edouard ne croit pas, justement, donc. Pardon. Edouard est d'accord avec Fabien. Il pense donc qu'offensivement c'est trop faible avec Oaro, qui est en deçà de l'an dernier. Et Harding, malgré l'apport d'Harding.
Ouais, bon, moi je voulais dire, bon, chaque année c'est pareil. Dès que Paris commence à gagner, on commence à dire que Paris va faire quelque chose de bien cette année en Ligue 1. Moi je trouve que, sincèrement, au jour d'aujourd'hui, moi je crois plus trop au PSG. Même s'il y a eu du jeu contre Sochaux, je l'avoue, il y a eu un bon match, je me suis régalé quand je l'ai vu. Maintenant, Paris, pour moi, c'est une équipe qui doit pas se reconstruire que de l'intérieur, de l'extérieur aussi. À chaque fois, il y a un manque de confiance, ils n'arrivent pas à enchaîner les victoires et tout ce qui va avec. Sincèrement, pour moi, je crois plus trop au PSG. À chaque fois, on parle de Paris, dès qu'ils gagnent, qu'ils vont revenir, que le PSG veut revenir. Pour moi, c'est pas en gagnant à Sochaux, c'est un match, on va voir sur la continuité. Mais encore une fois, je pense que Paris va continuer à perdre des matchs bêtes, des matchs qui vont leur faire des points, qui vont leur coûter cher. Moi, je crois pas à ce PSG-là. Voilà.
D'accord. Hugo.
Bah, moi, je crois moyennement. Parce que bon, hier, faut quand même pas leur enlever la victoire. Ils ont, pas explosé Sochaux, mais ils les ont bien dominés. Quand je regarde le classement, Paris est 10e avec 16 points. C'est déjà 9 points de retard sur Bordeaux, sans compter le match de retard, mais qui, en admettant qu'ils vont perdre, ça fait déjà une sacrée différence.
T'admets qu'ils vont perdre direct. sympa pour eux.
Ah, c'est normal. Et puis après, moi, je suis inquiété, c'est du bon, parce que si Erding se blesse, il y a qui derrière? Eh ben, il y a personne pour tenir la baraque, puisque Waro est déjà blessé. Donc, pourquoi pas Paris, mais faudrait franchement qu'ils étoffent leur banc, quoi.
Hugo, pour reprendre ce que tu dis qu'Harding, si Harding se blesse, il y a personne derrière, mais le problème Harding, enfin c'est pas un problème Harding dans les autres clubs, mais le problème de la dépendance à un joueur, il concerne d'autres clubs, il concerne Monaco. Si Nené se blesse, il y a qui derrière? Il y a personne. Pareil pour Marseille. Marseille, laisse-moi finir. Si Nyang se blesse, il y a personne derrière. Et moi, je pense que vous descendez Paris, mais vous pensez pas trop au niveau global des autres équipes. Et je pense que à l'heure actuelle, quand on voit l'effectif, le 11 type de Paris, au niveau du banc, il y a certes un banc un peu moins étoffé peut-être que Marseille. Au niveau de Monaco, je serais pas aussi sûr, mais Paris reste une équipe qui a donc ses joueurs majeurs comme Erdig, mais le problème donc de la dépendance concerne d'autres équipes et moi je suis pas d'accord avec ça. Oui, je...
Ouais, bon après c'est quand on parle de Erdig, bon qui est, on va dire il y a une dépendance à Erdig, bon c'est vrai qu'il a été blessé. Bon, sincèrement, il est uniquement à 3 buts. Je pense qu'il y a quand même, je pense qu'il y a plus du Néné qui mérite plus d'avoir une d'avoir des encouragements pour lui parce qu'il est quand même à 9 buts. Et il fait une grosse saison. Erdig, il est bon, mais je trouve pas non plus excellent d'en faire tant une indépendance, quoi. Erdig, quoi. Je trouve que, avec des clubs comme Paris, comme l'OM, tout ça, on met facilement plus de joueurs à l'avant qui sont à 3 buts, 4 buts, alors que, comme des clubs comme Monaco, il faut mettre des joueurs en avant dès qu'ils sont à une quinzaine de buts. Moi, je suis pas trop pour ça. Moi, je trouve pas Erdig, même s'il est bon, je trouve pas non plus excellent. Je vois pas Paris, je vois pas indépendance Erdig à Paris, quoi. Je pense que Paris pourrait se démerder quand même sans Erdig, même si c'est un très bon joueur. Mais je pense pas que Erdig fait le jeu de Paris quand même. Voilà.
Moi, je suis pas sûr au niveau de Paris qui pourrait se démerder peut-être, mais jouer aussi bien qu'avec Erdig, non, je pense pas. On l'a vu hier soir encore. Il a fait un excellent match et avec Harding, c'est un PSG transfiguré qu'on voit. Et les chiffres parlent pour moi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, avec Harding, le PSG a seulement perdu 2 points à Montpellier. Donc c'est un autre PSG avec le Turc et c'est pour ça que je me permets d'avancer une Harding dépendance. Ouais. Après, comme j'ai dit, elle est présente aussi ailleurs. Hugo.
Bah, je pense pas que c'est forcément une Harding dépendance, mais surtout un joueur du même profil. Pas des vrais attaquants à Paris, j'en compte que 2, puisque Vindoula cette saison, je pense que Camboire l'utilise surtout à droite, Dumbly sur les côtés, il l'utilise en pointe, c'est de manière occasionnelle. Donc ouais, à Paris, il manque d'attaquants. Je pense que à gauche pour Peggy Vindoula, pardon pour mon petit cadre. Mais Paris manque d'attaquants et ouais, je pense que c'est plus ça le problème à Paris. Mais par contre à Paris, un joueur qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est Jallet, qui est bon, il fait vraiment des très très bons remplacements, puisqu'à chaque fois soit il marque, soit il fait une passe décisive.
Polyvalent.
Il est sur 3 des 4 buts hier quand même.
Oui, 3 passes décisives hier.
Donc avec Jallet, ils ont quand même une valeur sûre sur le banc. On va pas leur enlever ça.
Mais d'accord, merci Hugo. On a une réaction de Beno 19 qui souhaite d'ailleurs un joyeux anniversaire à Ronetto.
Bon anniversaire, Beren.
Je sais, mais on sait jamais. Je pense pas qu'ils vont être troisième, mais c'est un peu impossible. Beno, il sait pas trop. Il reste dubitatif par rapport au PSG. Donc Hugo, tu soulignais l'apport de Jallet. C'est vrai qu'on oublie Jallet qui, tout à l'heure, Jérémy, t'as parlé d'une seule recrue Harding, mais aussi Jallet. Et les deux joueurs, pour l'instant, sont de très bonnes satisfactions. Voilà. Donc, concernant le PSG, on a dévié un peu en Harding dépendance. Mais, globalement, Fabien, à part moi, Yac, vous n'y croyez pas trop, mais, la possibilité, moi je ne placerai pas bien sûr le PSG assez certain, sûr et certain le PSG sera troisième à la fin de l'année, mais je pense que le PSG n'a pas à rougir d'autres équipes qui visent cette place comme Marseille, comme Monaco, et moi je pense que ça se jouera entre ces trois là à la fin de l'année. Reste à savoir laquelle des trois sera la plus régulière sur le long terme. On n'est pas voyant. À mon avis, à l'heure actuelle, c'est impossible d'en sortir une du trois, une des trois du lot. Donc, mais ce qui est sûr pour moi, Paris a les capacités de prétendre, pourquoi pas, ils ont fait une troisième place en Ligue 1. Oui,
ouais, c'est ça. C'est bon. Je sais pas. Je crois que c'est Hugo. Tu parlais du banc de Paris. Bon, ok. Aussi de l'hypothétique blessure d'Erding qui pourrait poser problème. Bon, c'est vrai, hein. Mais bon, comme je disais tout à l'heure, il joue pas de Coupe d'Europe, ce qui franchement est un gros avantage par rapport aux autres. Et bah, tu peux pas raisonner en admettant qu'il y aura des blessés. Bah, ça c'est pareil partout, hein. T'as des blessés importants dans tous les clubs. Bon. Vaut mieux, moi je pense qu'il faut mieux raisonner en admettant qu'ils seront pas blessés. Et en prenant en compte ça, plus le fait qu'ils jouent pas de Coupe d'Europe, moi je pense que ils ont un bon coup à jouer.
Leur cartage, ouais. Je suis d'accord avec toi. Il y a Beno19, enfin non, c'est supporter grenoblois, qui lui ne voit pas Paris troisième, mais plutôt Monaco, pour faire plaisir à Hugo. Et supporter grenoblois qui dit donc que Erding remplace Soaro, en fait. Je dirais pas qu'il remplace Soaro, mais il permet une autre solution offensive, un autre profil d'attaquant qu'Oaro. Et en plus, cette année, Oaro n'apporte pas satisfaction, donc il est aligné seul en pointe, là, dans ce 4-2-3-1. Après, la question, c'est que, est-ce que ce 4-2-3-1 sera retenté? C'est dommage qu'on n'ait pas Flo là ce soir qui a un petit problème technique, qui peut pas nous parler un peu du PSG, mais il y a que toi qui as vu le match hier, qu'est-ce que t'en as pensé de ce 4-2-3 du PSG?
C'était pas mal, ouais. Bah, surtout l'avantage de ce système là, c'est que tu peux mettre Jallet sur le côté droit, qui, comme disait Fab, je crois, est vraiment très bon. Et surtout tu peux mettre Cessegnon dans l'axe, qui apporte vraiment beaucoup plus que quand il est à droite, quand il est cantonné sur un côté, et qui vraiment peut apporter énormément quand il touche beaucoup de ballons.
Mmh. Oui, Cessegnon qui a été bon hier soir dans ce poste de 10 ou 9,5, appelez-le comme vous voudrez, donc voilà. Donc merci Gak, et donc je pense que globalement on a répondu à cette question. Hugo, Julien, Fabien, Jérémy ne sont pas d'accord et pensent, ne voient pas le PSG comme une équipe capable de jouer la Ligue des Champions, mais une équipe peut-être pour laquelle on en fait un peu trop. L'année dernière aussi, à une certaine époque, on les voyait tout défoncer sur le passage. Et alors que à l'inverse, Yak et moi, je vois donc le PSG avoir sa carte à jouer dans cette lutte à la Ligue des Champions. Donc voilà, on a fini pour ce sujet. On va
merci passer... pour cette superbe conclusion, Roméo.
Ah ben, merci. Je pense que là, j'ai bien synthétisé.
Ouais, c'était magnifique.
Donc voilà, il y a beaucoup de monde qui te souhaite bon anniversaire, Jérémy, Gante.
Hey. T'as pas un petit jingle anniversaire, là?
Oh, tout le monde lui souhaite sauf nous, quoi.
Putain. On n'est pas sérieux.
Anniversaire. On n'a pas un petit aller servette, là? Dommage. Bon. on va passer tout de suite au deuxième sujet. Lyon. Lyon et Bordeaux, ça va être un peu groupé. Lyon, est-ce que Lyon est au niveau de Bordeaux? Lyon, pas au niveau de Bordeaux. Au niveau comptable, l'OL est quasiment donc au point de Bordeaux avec seulement 2 points. Un peu trop de réputation, de répétition, pardon. Avec seulement 2 points de retard sur les Marinés blancs. L'équipe lyonnaise montre ses limites dans le jeu et encore moins bien partie. Lyon est moins bien parti que l'an dernier à la même époque. Donc moins de points engrangés alors que Bordeaux est mieux parti. Lyon recevra dimanche l'OM pour l'Olympico si cher à Grégoire Margoton. Et ça sera un premier vrai test peut-être pour l'OL. Et est-ce que Lyon peut se hisser au niveau donc des Bordelais, tenir la distance des Girondins qui sont d'ailleurs bien repris après leur revers à la Baie des Champs à Geoffroy Guichard en s'imposant samedi contre une des surprises, on va en parler, de Monaco, une des surprises de ce championnat. Julien, bah vas-y.
En fait, ce que je veux dire, c'est un peu bizarre. En fait, je vois bien Bordeaux quand même aller au bout, être champion de France, même si je crois beaucoup en Lyon. Je pense quand même que Lyon sera duré, va mieux tenir. Par contre, je vois plus Lyon aller plus loin avec des champions que les Girondins de Bordeaux. Pas parce que les joueurs ont plus d'expérience au niveau européen. Et je vois pourquoi pas faire Lyon faire un mauvais championnat. Et pourquoi pas faire une très belle Ligue des Champions et faire un beau parcours comme vous avez fait il y a pas mal d'années, arriver en quart de finale. Moi, je le vois bien, ça. Je trouve qu'on en parle pas assez de l'exploit de Lyon à Liverpool. L'OM, l'année dernière, on en a fait tout un monument. Là, Lyon est quand même revenu à, était mené à 1-0 et quand même revenu à 2-1. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui feraient ça, même s'il manquait des joueurs à Liverpool. Il manquait des joueurs aussi à Lyon. Et donc, je pense qu'il n'y a pas d'excuses. Lyon, voilà. Je tenais à dire quand même, je vois bien Lyon en Ligue des Champions. Et niveau Ligue 1, je vois Bordeaux champion. Même si je pense que Lyon peut, a quand même la place pour gagner face à, devenir champion de France devant les Girondins.
La Ligue des Champions, on va en reparler un peu après, de Lyon, de Bordeaux. Mais donc, par rapport à, tu vois, Bordeaux au-dessus?
Ouais, fait, au-dessus, non. Je les vois, peut-être, être champion parce qu'ils ont l'expérience comme ils ont gagné l'année dernière, mais au-dessus de Lyon, sincèrement, je sais pas. Je pense que Lyon, il faut attendre un peu ce truc qu'il va prendre avec une nouvelle recrue qu'il y a eu. Et moi, je trouve quand même que ce qui coûte cher un peu à Lyon, c'est l'entraîneur Claude Puel. Malheureusement, c'est peut-être un bon entraîneur, mais je pense que s'ils auraient un entraîneur beaucoup plus offensif comme ils avaient à l'époque, comme Gérard Houllier qui a connu l'Angleterre, je pense que Lyon ferait beaucoup plus mal qu'avec Claude Puel.
D'accord. Oui, donc toi aussi, tu penses que avec Puel, Lyon est un peu bridé au niveau de ses capacités. Et à toi, Yac, qui est supporter bordelais, peut-être un des plus à même de répondre à ça. Je pense que tu vois Bordeaux quand même au-dessus de Lyon au niveau du collectif, au niveau de l'entraîneur aussi.
Ouais, dans l'ensemble, je pense qu'ils sont au-dessus. Maintenant, Lyon, ils ont peut-être un avantage sur Bordeaux, c'est que les adversaires ont moins tendance à jouer tous derrière, si je puis dire, et ils ont un petit peu plus d'espace peut-être dans le camp adverse. Ça, plus le fait que je les trouve quand même dans la zone d'attaque peut-être un petit peu plus tranchant. Ils ont sûrement des joueurs un petit peu plus talentueux, et j'ai l'impression que quand ça commence à combiner proche de la surface adverse, il y a plus de mouvement, c'est peut-être un petit peu mieux. Mais dans l'ensemble, que ce soit solidité défensive, mobilité, la fluidité dans le jeu, je trouve quand même que Bordeaux est un bon cran au-dessus de Lyon. Maintenant, leur capacité offensive, ça peut suffire. On l'a vu contre Saint-Étienne, ils ont pas été terribles, mais quand ils avaient le ballon proche de la surface, ils étaient quand même souvent dangereux. On a Lisandro par exemple qui fait 2 barres. Il y a eu quelques mouvements vraiment vraiment chauds. Voilà, donc faut voir, mais ouais, je mettrai quand même une petite pièce sur Bordeaux.
D'accord, oui. D'accord. Et Edouard, encore, appuie tes propos. Il pense que donc Bordeaux est au-dessus de toutes les équipes, meilleur trainer, meilleur effectif, meilleur joueur. Il est totalement confiant pour le titre bordelais. Bordeaux, c'est plus de points que l'an dernier. Lyon, c'est moins de points, comme je l'ai dit. Bordeaux a également un meilleur préparateur physique. Il souligne ce point-là aussi. Parce que c'est un des gros problèmes de Lyon avec leurs nombreuses blessures, notamment aux adducteurs. On n'en parle pas souvent aussi de ce problème des blessures récurrentes qui concernent les joueurs de l'Olympique Lyonnais.
Ouais, l'année dernière, ils avaient le génie Robert Duverne. Et on se rend compte que la moitié de l'effectif depuis 3 ans était blessé. Bon, ça, il est parti, mais bon, c'est un peu reparti sur les mêmes bases, quoi.
Et Edouard qui finit par dire que si on le trouve trop pro-bordelais, il nous emmerde. Voilà. Donc, vas-y Jérémy, par rapport à...
Ouais, je pense un peu comme Julien, c'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas vraiment d'équipe au-dessus, une au-dessus de l'autre. Parce que bon, stabilité dans le club, profondeur de banc, expérience, tout ça, c'est à peu près pareil. Donc, je pense que ça va se jouer principalement aux confrontations directes, c'est-à-dire que comme l'année dernière, je pense que l'écart entre les deux ne sera, enfin, l'année dernière, si, parce que bon, Lyon a fini troisième, mais cette année, je pense que les deux équipes au-dessus, c'est Lyon et Bordeaux. Pourquoi, pour moi, Marseille, c'est au-dessous. Et donc, ça va être serré, et donc, ouais, je pense que ça va se jouer aux confrontations directes. Donc, les matchs qu'il faudra pas perdre, quoi.
D'accord, donc toi, tu...
Ouais,
tu...
d'ailleurs, je vais chercher sur le calendrier pour voir quand est-ce qu'elles ont lieu.
D'accord, à l'instar de Julien...
Donc, ça doit être décembre et avril, un truc comme ça.
Je vais vous dire.
Voilà. Donc, les confrontations directes, c'est décembre et avril, comme nous le dit. Donc, à l'instar de Julien, tu vois pas une grande différence entre ces deux équipes?
Non, pas tellement, non. Parce que bon... On le voit maintenant, là, ils font tous deux un bon début de saison, ils ont un effectif cohérent avec des bons remplaçants, ils jouent tous les deux la Ligue des Champions, ils ont fait tous les deux également un bon début dans cette compétition, et bon, l'expérience, tout ça, la stabilité, les entraîneurs, les coachs, et ben, donc j'en reviens à mon truc qui dit que ça va se jouer aux confrontations directes, parce que je pense que ça va être très serré tout le long de la saison.
D'accord, merci Julien, Hugo. Merci Gérard.
Oui.
Vas-y Hugo.
Confrontation directe, je suis pas d'accord, ça représente que 6 points. Les 6 points, bah, Lyon a déjà perdu contre Sochaux et Nice, donc ça a plutôt joué contre des équipes de niveau inférieur. Après, pour revenir, je trouve que chaque équipe a ses arguments. La défense bordelaise est supérieure à celle de Lyon, ça fait aucun doute. Lyon possède le meilleur gardien de Ligue 1. Voire même un des meilleurs gardiens en Europe.
Ça c'est vrai, oui.
Ouais,
et Lyon possède franchement une belle paire d'attaquants, même si pour le moment ça marche pas très bien. Dès que ça va marcher, ça va faire très mal. Et Bordeaux possède Gourcuff, hein. Gourcuff qui n'est pas au top, mais même sans Gourcuff, on voit très bien que Bordeaux se démerde bien. Donc j'attends de voir ce que ça va donner Bordeaux avec un grand Gourcuff.
D'accord. On a
Bordeaux avec un grand Gourcuff, c'est simple, une boucherie à mon avis.
Ah, ce serait comme nous avec un grand Lisandro.
Ouais, tout à fait.
Et voilà, il y a Benoît 19 qui lui voit comme moi le collectif de Bordeaux meilleur que celui de Lyon. Édouard qui remet en doute ce qu'a dit Hugo. Non, Hugo n'a pas dit meilleur gardien d'Europe, mais un des meilleurs gardiens d'Europe. Bordeaux montre également qu'ils ne sont pas dépendants de Gourcuff. Ça, c'est vrai que c'est important. Mais moi, Jérém, tu ne vois pas de problème Puel à Lyon?
C'est en train de s'arranger, on va dire. Cette année, il fait quelques coachings payants, mais il commence à prendre de plus en plus confiance et il commence à connaître la maison petit à petit, donc je pense pas que le problème, si Lyon rencontre un problème, ce soit lié à Puel en tout cas.
Okay, ouais, c'est ça, on parle souvent de Puel, problème Puel. Franchement, il n'y a pas de problème Puel cette année à Lyon. Tactiquement, il n'y a rien qui fait que Puel bride les capacités de son équipe, je suis désolé.
Quand même.
Moi je trouve énormément. Moi personnellement, sincèrement, quand je vois Olas qui dégage Alain Perrin alors qu'il a fait le doublé, on critique Alain Perrin, mais quand même il avait du courage, il mettait une équipe offensive, il prenait des risques, surtout il était souriant, donnait envie aux joueurs d'aller le voir, alors que Puel il est froid. C'est pas un entraîneur à qui on a envie de parler, à qui on a envie d'être solidaire avec lui. Il est super froid. Déjà après, son équipe il la bride de A à Z, c'est-à-dire qu'il a des joueurs de qualité, il en profite pas à 100%. Moi, je trouve qu'Olas, je vois pas pourquoi il a gardé Puel alors qu'il a fini troisième et viré Alain Perrin alors qu'il a eu le.
Et c'est financier le problème Puel. Il peut pas virer Puel parce que s'il virait Puel à la fin de la saison, c'est 12 millions d'euros en indemnité de départ.
Ça aussi, je pense aussi qu'il y a eu la fierté Olas aussi un peu parce qu'Olas depuis le temps qu'il voulait Claude Puel, il en a fait une apparition à tout le monde pendant un petit moment. Je pense qu'il avait pas voulu aussi montrer qu'il avait fait un mauvais choix directement. Et je pense qu'il y a ça aussi, ouais. Et puis l'indemnité de 12 millions d'euros, comme tu dis. Mais c'est vrai que sincèrement, je préférais Alain Perrin, même si on l'a beaucoup critiqué. Sincèrement, il a eu le doublé, alors que plus elle a l'effectif aussi. Mais il bride trop ses joueurs, alors qu'il y a un effectif quand même qui est excellent, quoi. Il faut, Il a une belle équipe, il a un banc, il a de quoi faire quelque chose de bien, il a des jeunes en plus qui poussent. Sincèrement, il a tout pour lui, et malheureusement, l'équipe est trop bridée.
Franchement, je veux bien que tu m'expliques en quoi il bride ses joueurs.
Simplement, il prend pas assez de risques, tout simplement. Pour moi, il prend pas assez de risques. Tout simplement. Ouais.
Je suis d'accord avec Julien. Il aligne une compo et une mentalité de jeu trop défensive, alors que
le seul truc, quand il a pris Lyon,
quand il a pris Lyon, c'était le champion en titre, et il en a fait une équipe moche et qui joue ultra défensif, une équipe.
Oui, ça c'était le cas l'an passé. Le vrai gros truc qu'on reprochait à Puel, c'était son milieu de terrain, qui était merdique, et c'est vrai. Quand il associait Toulalan et Makoud, ça, on se rend compte qu'il le fait plus du tout. Et même dans le pressing, je suis désolé, ils montent tous ensemble. Il n'y a pas de problème tactique à Lyon. Il n'y a pas de problème de bridage, je sais pas quoi. Je suis désolé. Hein. On le voit contre moi. C'était quoi le match de tour préliminaire?
Anderlecht.
Tu voyais, franchement, ça partait dans tous les sens. Alors si ça, c'était
oui.
pas une
équipe offensive, mais là c'est quand même Anderlecht en face, c'est différent, il a moins de pression. Il est quand même supérieur. Là, quand même, il sort d'une saison mauvaise où il a fini troisième, il a la pression d'avoir du mauvais résultat. Et ce mec, pour moi, il joue vachement bridé. Il prend pas de risque.
Si tu dis qu'il bride son équipe, ses joueurs, c'est pas parce que c'est Anderlecht que ça doit changer.
Moi, ah non, mais
comme ça. Mais voilà quoi. Pour moi, l'équipe, elle joue l'offensive cette année.
Ouais. Moi, je compare à Lyon d'avant. Pour moi, c'est pas l'offensive qui joue. Quand je compare au Lyon d'avant. C'est pas l'offensive du tout qui joue.
Ouais, parce qu'ils maîtrisaient mieux au milieu de terrain. Ils avaient techniquement et collectivement.
Ouais, je trouve, sincèrement.
Fort. Ils avaient pas les mêmes joueurs. Mais c'est pas un problème tactique.
Mais ils ont quand même des excellents joueurs, quand même, là, je trouve. Ils ont quand même du Michel Bastos. Ils ont quand même du Alexis Soko, Lisandro Lopez. Moi, je trouve sincèrement qu'il y a plus l'indépendance qu'il y avait sur Juninho avant. Il peut compter plus sur un effectif aujourd'hui. Et il en profite pas assez.
Je disais ça, tu compares par rapport au niveau de jeu de l'époque Houillé, et c'est pas les mêmes joueurs.
Pas forcément Houillé, même Alain Perrin, hein. même Perrin, tu vois.
Perrin, je suis désolé, c'était complètement décousu, c'était merdique.
Ouais, mine de rien, il a quand même eu le doublé, je trouve.
Et pourtant, il avait de loin le meilleur effectif, et il a galéré, il est champion à la dernière journée de 3 points. Voilà, quoi. Puis dans le jeu, tu sentais quand même que ça baissait à l'époque Perrin.
Hugo. Et
pour moi, je trouve que ça baisse encore plus avec l'époque Puel.
Hugo.
Ah, moi, j'ai retourné le problème et j'ai plutôt demandé, est-ce que c'est pas les joueurs qui brident le jeu de Lyon en Ligue 1? Puisqu'en Ligue des Champions, franchement, je sais pas qu'est-ce qu'on peut reprocher à Lyon, mais en Ligue 1, c'est carrément différent et pourtant l'entraîneur c'est le même. Moi, j'ai une sensation que c'est les joueurs qui favorisent la Ligue des Champions et qui sont lassés de cette Ligue 1. Je sais pas si vous avez la même sensation que moi, mais...
C'est-à-dire qu'en Ligue des Champions, t'as plus d'intensité, c'est beaucoup plus serré, donc tu fais moins d'erreurs, tu te disperses pas, t'es super concentré. Alors qu'en Ligue 1, quand tu joues des équipes moyennes, psychologiquement, t'es moins à 100%, quoi. C'est la seule différence que je vois, moi.
Surtout que en Ligue des Champions, quand Lyon joue la Fiorentina, quand Lyon joue Liverpool, ça reste une équipe qui joue. Contrairement à la majorité, voire je dirais même pas quasiment à la toute totalité de la Ligue 1, qui ne prendra jamais le jeu à son compte contre l'Olympique Lyonnais. C'est pas Lyon n'aborde pas les rencontres de Ligue des Champions avec le même statut que les rencontres de Ligue 1.
Heureusement.
L'état d'esprit est complètement différent. Tu vois, en Ligue des Champions, t'as une grosse envie de gagner. Alors qu'en Ligue 1, tu le vois pas forcément. Peut-être qu'il y a de lassitude, peut-être qu'il y a un ras-le-bol de jouer en Ligue 1, de, je sais pas, de la gagner 7 fois d'affilée, ça a peut-être dû les saouler un moment, et ils ont dû vouloir passer au niveau supérieur.
Oui, oui. Et toi, Hugo, pour recentrer un peu le débat, par rapport aux chances de Lyon, par rapport au titre, tu vois Bordeaux au-dessus, je sais que oui, par rapport à... Non, pas d'avis, sans opinion.
Je vois à peu près pareil, je l'avais dit, chacun a ses forces. Puis voilà, ça va se jouer contre les petites équipes. Pour le moment, Bordeaux est vainqueur. En attendant les confrontations, la confrontation contre Lyon, mais je pense qu'ils sont au même niveau. Mm-hmm. Pour l'instant, avantage Bordeaux puisqu'ils sont premiers.
D'accord. Pour l'instant, avantage Bordeaux. Moi aussi, je penserai un avantage Bordeaux. Je suis d'accord avec toi. Sinon, pas d'autres réactions par rapport à ça, par rapport à Bordeaux-Lyon. Parlons de Siani, Hugo. Tiens, tu veux parler de Siani et c'est vrai qu'il remplace plutôt bien le Rama, même j'ai envie de dire qu'il est encore meilleur.
Il est meilleur.
C'est, je dirais presque une valeur ajoutée. C'est, on vend Camara pour 10 millions et tu récupères Siani pour 5 millions, je crois. Siani qui est meilleur en plus, donc c'est carrément bien joué de la part de Bordeaux. Et puis quand on disait que Laurent Blanc mettait le temps, son temps à prendre son défenseur, il a bien pris le temps là, parce que franchement,
il s'est pas trompé.
Alors il a pris le bon choix, il a fait un bon choix, contrairement à Didier Deschamps.
C'est vrai. Oui. Puis tu remarques un truc au-delà de Siani, franchement la défense l'année dernière c'était un problème. T'avais que Diawara qui sortait du lot, même s'il faisait des conneries, mais il avait l'air spectaculaire par son style de jeu, mais franchement il était pas non plus, pas toujours extraordinaire. Mais tu remarques que cette année t'as un Siani qui franchement est meilleur, qui est plus sobre aussi, et surtout à côté de ça t'as Planus qui est là, je pèse mes mots parce que je l'ai pas toujours dit, hein Roméo.
Oui, oui.
Planus qui revient à son meilleur niveau et vraiment vraiment ça, tu sens une solidité que t'avais pas depuis des années.
Oui Planus que tu t'évertuais à critiquer avant. Edouard aussi, supporter de Bordeaux, me dit que Planus est devenu impressionnant.
Donc, ouais, il revient à son meilleur niveau qui était son niveau de 2006-2007. Peut-être un petit peu meilleur, peut-être encore, parce qu'il s'est amélioré en relance. C'est un peu ce qui lui manquait. Après, il a été blessé, il a vraiment baissé de niveau, et là, il revient vraiment très bien. Très très bon.
Donc, une charnière centrale qui revient au top niveau à Bordeaux. Et pour continuer ce que disait Edouard, il nous dit donc, qu'il a continué en la progression qu'il avait abandonnée il y a quelques années. Ça devient un superbe complément à Siani, et comme Siani est déjà supérieur à Diawara, la défense est tout simplement énorme à Bordeaux. Et Tremoulinas aussi, j'ai envie de dire, qui s'affirme comme le meilleur, indiscutablement le meilleur arrière gauche de Ligue 1 à l'heure actuelle.
Enfin, le meilleur arrière latéral même, tu peux dire.
Oui même, c'est vrai.
Oui. Et Carasso dans les buts aussi.
Oh. Carasso, je le trouve.
Carasso, ouais, pas bon. Carasso.
Ce début de saison.
Ouais, on a souvent pas qu'il est pas bon, mais il fait le taf, il est pas énorme, mais il est...
Moi, ouais, franchement, Carasso, sur sa ligne, il est assez extraordinaire. Il a des réflexes incroyables. Mais alors, c'est sorti. Oh là là, quel catastrophe.
Il fait peur.
Fait vraiment, je crois...
Certains Mandanda à Marseille.
Oh non, je te garantis, c'est pire. Je m'étais amusé depuis le début à noter toutes les boulettes qu'il faisait en sortie. Maintenant, j'ai abandonné. Franchement,
d'ailleurs,
à part les deux derniers matchs là, donc Le Mans et Monaco, je t'en sors une par match facile. Depuis le match de Grenoble jusqu'au match contre le Bayern, et des sorties incompréhensibles.
Et ben justement, pendant que tu parlais là, j'avais une réaction d'Edouard qui me disait exactement: Carasso est un danger public. Il fait une à deux boulettes par match dans ses sorties aériennes. Voilà. D'ailleurs, Ronieto. Ouais. La sortie de Carasso poste là sur le topic de la radio, voilà pour okay. Les auditeurs.
Non mais moi je suis étonné d'entendre ça, parce que nous à Toulouse l'année dernière, mais j'ai même pas souvenir d'une boulette hormis en début de saison contre Lyon et contre l'Havre. Or après ça il a été énorme et toute la saison, mais un truc incroyable, et surtout dans les sorties, c'est ça le pire.
Tu veux un exemple? Pas plus tard que le match contre le Bayern, en deuxième mi-temps, la tête de Tony sur le poteau.
Oui, non mais je contredis pas, mais je dis juste que ça m'étonne. C'est Je sais pas ce qui s'est passé.
C'est assez inquiétant, moi, je trouve. Et d'ailleurs, contre Monaco, il fait quasiment son premier gros match de la saison.
Avec notamment le doublé sur le corner que...
Ouais.
Qui était vraiment pas mal.
Je pense qu'il a sorti, hein, pour le coup. Ouais.
Eh ben, oui. Donc voilà, Carasso, voilà.
Duris, ça l'a posé. Puisque c'était une comparaison. Bah, on peut parler de Duris aussi. Hugo Duris.
Julien, pardon, il y a Julien qui voulait réagir.
Moi je voulais dire, bon, par rapport à Carasso, bon, c'est vrai qu'à Bordeaux, bon, c'est pas ce qu'il fait à Toulouse. Mais bon, faut pas oublier quand même ce qu'il a fait l'année dernière à Toulouse. Il a prouvé que c'était un grand gardien. Je pense qu'il faut laisser le temps. À Bordeaux, il y a quand même Ramé qui est derrière. Il y a quand même une pression qui est énorme. Parce que Ramé, mine de rien, il est toujours présent. Ça reste quand même un grand nom, un grand gardien. Je pense qu'il faut laisser le temps à Carasso. Je pense qu'il va reprendre le niveau qu'il avait à Toulouse. Et après, je tenais aussi à dire, ça a rien à voir, mais, voilà que le virage est de Toulouse Stadium a été renommé le virage Bristaton. Et je tenais à le dire par rapport à sa famille et tout ça, et une forte pensée pour Bristaton. La part de tous les Toulousains.
Exact. Merci, voilà. Merci de l'info, Julien. T'as parlé de la sortie enfin le bon match de Carasso contre Monaco. Et ben la transition est toute faite parce que on va pouvoir parler de Monaco tout de suite.
C'était pas fait exprès. Hein.
Arrête de sous-estimer. On va pouvoir tout de suite parler de Monaco.
Bah Monaco joue en 4-2-3-1 cette saison avec Ruquier dans les buts. On parlait de Carasso et tout, et bon. Franchement, Ruffier, sur le début de saison, n'a rien envie à Carasso, Mandanda, Pelé et tout. Puisque il est énorme sur sa ligne. Au niveau des sorties, c'est largement amélioré, puisque l'année dernière, c'était carrément un terroriste. Il sortait à l'arrache, il était là pour défoncer le joueur, il s'en foutait du ballon. Et puis là, cette année, il s'est soigné de ce mal. Et fait vraiment des performances énormes. Je dirais presque extraordinaire. Ça va faire depuis longtemps qu'on n'a pas eu un gardien de ce niveau-là à Monaco. Malgré le Chavi Roma et tout, ça fait du bien, quoi.
Bah, Ruffier toujours énorme lors des grands rendez-vous.
Surtout à Marseille.
Un gros match à Marseille.
Oui.
À Bordeaux aussi, les parades qu'il a fait, notamment sur le but de Planus, la tête de Chamac, faut la sortir, quand même.
Oui, c'est vrai. Voilà.
Ensuite, à gauche, on a Jimmy Traoré, qui est relativement moyen, qui est juste là pour l'expérience, à mon avis, qui n'a pas grand chose à faire à Monaco. À droite, on a Adriano, celui qui a déclaré être plus pêcheur, qui aime beaucoup la pêche, qui était très mauvais, calamiteux, qui était c'était une vraie raclure de bidet. Ce joueur-là, il était plus pour l'adversaire, on jouait à 10 contre 12. Il donnait souvent des ballons dans l'axe et tout, mais bon, cette saison, il est devenu aussi bon. Je ne sais pas comment, est-ce qu'il a pêché à un gros poisson, peut-être que ça l'a fait, changer d'avis, je sais pas. Et puis on a la charnière centrale, avec Puy Grenier qui revient à un bon niveau, qui est le Puy Grenier qu'on a connu à Nancy. Ça, c'est un bon joueur. Et puis on a Mongongou. Ce joueur-là, je pense que je vais l'astiquer.
Et que devient Nkoulou?
Nkoulou joue au milieu maintenant.
Ah d'accord. Aux côtés on va y arriver. Vas-y.
Mongongou. Je sais pas si vous avez vu des matchs de lui cette saison, mais c'est assez impressionnant, surtout pour son âge.
Sauf ses coiffures, on va dire.
Ouais, ses coiffures assez pissates. Son espèce de crête de poussin jaune pisse. Non mais franchement Mongongou il est bon de la tête. En un contre un, il est très dur à battre. Il est assez vif, malgré sa taille imposante avec le Puy Grenier, ça forme franchement un très très beau duo. On peut lui donner un petit point noir, c'est au niveau de la relance où il est assez, assez hasardeux. Mais bon, Puy Grenier est à côté pour faire ça, donc ça va.
Oui. Ouais, j'aimerais bien savoir ce que devient Yohan Molo en fait.
Bah il est blessé et puis
Ah d'accord.
Bien là et puis à sa place il y a Néné.
Ah. C'est dommage parce qu'il est super bon.
Ouais, il est super bon mais aussi super con. Ah. Ah mais quand favorise.
Ah, il a l'air d'avoir une bonne pastèque.
C'est une sacrée pastèque, quoi. C'est... Il dit clairement qu'il a pas peur des nénés, d'Alonso et tout, qu'il peut être aussi fort qu'eux, s'il a une augmentation de salaire. Donc en fait...
c'est le frère de Ménès, quoi.
C'est dans le cachet de Jojo et l'ami Ménès.
Il peut faire pour une fille en... Ouais, plus régulier.
Oui.
Ouais, midi, on a Eduardo Costa, le chouchou de Doudou.
C'est une espèce d'ailleurs, de... Doudou, qui, en parlant d'Eduardo Costa, nous dit qu'Eduardo Costa va être énorme quand il reviendra à son niveau, avec lui en 6 et Coutadeur en 8. On sait qu'il lui vaut une certaine admiration assez doute. D'ailleurs, on ne sait pas ce qu'ils ont fait dans le passé tous les deux, mais on préfère pas imaginer.
Oui. Certains cultes, oui. un obsédé d'Eduardo Costa, je ne sais pas ce qu'il lui a fait. Mais...
Écoute, il y en a d'autres, des comme ça, on comprend pas toujours. On résumera ça par un bref.
Voilà. Bref, Hugo.
Bah, Eduardo Costa qui est assez, qui n'est pas exceptionnel, mais qui fait ses matchs, qui est là physiquement. À ses côtés, soit on trouve un autre tueur à gage, qui sont soit Diego Pérez, soit Jean-Jacques Gosseau ou Yarko Leko. Soit on retrouve Nkunku que Lacombe a décidé de faire jouer au milieu de terrain, qui s'avère être pas si mauvais que ça, qui a une aisance technique supérieure à la moyenne à ces postes-là, et qui tient la baraque.
Meilleur en milieu défensif qu'en défense centrale, Nkunku, ou alors c'est mieux de le mettre en milieu défensif et de garder Mongongo en défense centrale.
Bah, je pense que la deuxième solution est la meilleure, puisque Mongongo, en ce début de saison, est quasiment indétrônable. Il est indétrônable. Et puis Nkunku, l'année passée, il a été bon, mais très irrégulier. Alors que là, cette année, Mongongo est très régulier puisqu'il est quasiment tout le temps bon.
On ne verra donc pas la paire qui faisait peur, Pérez Costa. Malheureusement. Ça aurait pu être bien drôle aussi.
Ouais. Oui.
Bon, Nelly, on a Néné qui, je vous le présente pas, c'est meilleur buteur de Ligue 1, tireur de coup franc assez exceptionnel. Puis bon, dans le jeu, il apporte, il est bon dans le jeu, mais sans plus. Bon, après, on a Alejandro Alonso, qui cette saison se révèle être régulier, ne plus être trop blessé, puisque l'an passé, il a passé les trois quarts de son temps à l'infirmerie, et cette saison, c'est le capitaine, et ouais, il fait ses matchs.
Oui.
Et puis devant, on a Park.
Exil du Johnson.
Johnson est blessé pour le moment, et puis s'il joue, ça sera en 10.
Oui. D'accord,
Park,
d'accord.
Donc, il est bon. Park, comment dire? Park, il court partout, il va chercher les ballons très bas, il pèse sur les défenses. Comparé à Brandao, il pèse vraiment sur les défenses, puisqu'il était vraiment chié, malgré sa petite taille d'1m74, je crois. Il a une très très bonne détente, et ce qui n'empêche pas de prendre les ballons, notamment face à des grands défenseurs. Face à Marseille, je me souviens bien qu'il a pris plein de ballons face à Diawara, et je sais plus c'était qui en première mi-temps. Et puis je sais pas.
Ouais, mais
dommage qu'il manque un peu de finition, mais bon, franchement, c'est bon.
Ouais, en fait, c'est ce qui manque. Enfin, il y avait Savidan et qui a eu le problème qu'on sait avant d'arriver à Monaco.
Ouais, mais s'il y avait Savidan, je sais pas comment il aurait fait pour faire jouer Park, pour faire jouer. Déjà qu'on a Pinot qui ne joue pas, ça aurait été, il y aurait un bouchon, il aurait fallu en vendre un.
Oui. Oui, et on remarque qu'il y a beaucoup de milieux offensifs à Monaco et il n'y a pas forcément une place pour tout le monde. Il y a Molo, comme on en a parlé, Néné, Coutador qui joue en 10, alors qu'il serait peut-être meilleur en 8. Il y a aussi Alonso, il y a aussi Pinot, mais Pinot d'ailleurs, il est blessé.
Ah, il est blessé, ouais, blessé au genou. Donc okay. Ouais, je crois qu'il a un problème aux adducteurs ou je sais pas où. Mais il est blessé assez régulièrement.
Ouais.
Comme Molo. Et là, il est en train de revenir Molo, donc.
Et par rapport. Oui, vas-y, je te laisse continuer.
Non, vas-y.
Par rapport au jeu de 4-2-3-1 au niveau du schéma de jeu de Guillaume, c'est mieux que Ricardo la dernière. D'ailleurs, si je parle trop de Ricardo, je vais me faire attaquer par notre fan. Oui.
Bon, franchement, c'est un peu mieux, mais sans plus, quoi. Je veux dire, contre des équipes assez faibles comme Lens, comme Boulogne, contre les équipes de ce niveau-là, c'est très 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 moyen, puisqu'on leur laisse le jeu, on n'en branle pas une, on joue surtout en contre et surtout sur le talent individuel. Et contre les grosses équipes, c'est un peu mieux, ça joue peut-être un peu mieux collectivement, mais je trouve que ça reste assez faible. Et heureusement qu'on a du talent, car sinon on serait pas à cette place-là. C'est surtout nos résultats sont surtout basés sur le talent que sur le collectif.
Oui. D'accord.
Mmh. Par moment, le jeu est vraiment assez chiant à voir.
D'accord. Et par rapport aux faiblesses monégasques, ça se situe plutôt au niveau défense, plutôt au niveau, comme tu l'as dit, des pointes, oui.
Bah, le problème,
il n'y a pas de vrai finisseur, c'est ça?
Ouais, il n'y a pas de vrai finisseur et les latéraux plutôt, je suis pas du tout convaincu, hein. Que ça soit, surtout Jimmy Traoré qui est relativement moyen, ou Adriano, qui même si il fait des bons matchs, quoi, ça reste Adriano, il peut faire une boulette à tout moment. Et derrière, il y a Lolo qui peut faire un bon match, mais qui est aussi assez fébrile. Ouais. Là, latéraux et la finition sont tous les points faibles.
D'accord. Oui, au niveau des latéraux, il y a des pistes déjà. On s'approche. Dans deux mois, ça sera le mercato d'hiver. Il y a quelques pistes au niveau de l'attaque, peut-être au niveau des latéraux.
Au niveau de l'attaque, il y a Giroud de Tours, qui est le meilleur buteur de Ligue 2. Qui intéresserait beaucoup Monaco, mais il y a aussi d'autres clubs qui sont dessus.
Giroud, c'est ça que t'as dit?
Non, Giroud.
Olivier Giroud.
Ouais, d'accord. Olivier. Il y a beaucoup de clubs qui sont aussi sur ce joueur-là, donc c'est à voir. Mais son profil plairait à Jean Petit.
D'accord. Olivier Giroud pour et au niveau des latéraux, personne, non?
Non. Par contre. Au niveau des départs, d'après je ne sais plus qui, Diego Pérez serait toujours convoité par Lyon, puisqu'il aurait dû signer là-bas cet été, mais à cause d'un départ de Nicolas Pokrivac, il ne l'a pas signé là-bas.
Ah oui, Pokrivac, il a pas signé où, pardon?
Pokrivac, il a signé à Vienne, Red Bull, je sais plus quoi, Red Bull.
Salzbourg. De Salzbourg, exactement. Voilà. Oui, merci par rapport à cette petite page sur Monaco. Et toi, t'es assez confiant pour la suite des échéances à venir monégasques?
Plus ou moins, puisque si on continue à jouer comme des grosses merdes contre des équipes d'un niveau inférieur, ça n'a pas tout le temps passé. Des fois, on va se prendre des roustes comme contre Nancy. Des fois, on va perdre tout simplement contre Sochaux. Mais par contre, si on joue comme on joue contre les gros, comme contre Marseille, contre Bordeaux, contre Paris, oui, là, je serais confiant.
D'accord. Merci, merci Hugo. Pas de questions. Je sens que vous êtes tous excités, tous choses de ce petite page sur Monaco. Non.
Je crois que Fabien avait une question.
Ah, excuse-moi, Fabien.
Ouais. Bah, ceci dit, tu parles. Sur l'avenir de Monaco, ils ont quand même joué pas mal d'assez grosses écuries, quoi. Ils ont déjà joué Bordeaux, Marseille, Paris. C'est déjà pas mal. Être troisième après avoir joué, on va dire, les trois équipes du gros 4, comme on dirait.
Oui.
C'est déjà bien, quoi. Il reste quoi? Oui. Il reste Montpellier.
Montpellier, ils font plus peur. Hein. Ils voilà. Apprécient tout Montpellier maintenant.
Ouais, voilà.
Je peux te faire de Tarnouze.
D'ailleurs, en parlant de Montpellier, peut-être parler de, je sais qu'on me l'a soufflé en off, c'était pas forcément prévu, on peut peut-être parler un peu de ces déclarations de Nicolas. Je pense que qui a donc déclaré samedi à la suite du match que Benoît Pedretti était, je cite, une tarlouse. Voilà, Hugo, tu rigoles, mais qu'est-ce que t'en penses de ces déclarations assez choquantes de Nicolas?
Je pense que surtout Nicolas, c'est un gros con. Maintenant, une image de quelqu'un qui tout le temps sa gueule et qui doit toujours l'ouvrir pour dire souvent des conneries. On sait qu'il aime son club, mais bon, des fois, il devrait être un peu plus humble. Et non, surtout fermer sa gueule, parce que des fois, franchement, si c'est pour dire ça.
C'est un gros clown qui a fait la galerie, quoi.
Après sur la déclaration de samedi, bon, le truc de la tarlouse, moi, ça me dérange pas, franchement. Bon, le truc du Paris Football Gay qui se plaint, ça, je trouve
ça me dérange. Paris Football Gay. C'est vraiment ce qu'on dit. On veut plus de discrimination, mais ces imbéciles-là trouvent le moyen de s'isoler d'un côté, quoi. Faudrait m'expliquer le principe du Paris Football Gay, quoi. Mis à part
C'est un autre débat, ça. Mais concernant les déclarations à proprement parler, toi, ça te dérange pas, Yac?
Le truc de la tarlouse, ça me dérange pas. Bon, c'est une insulte comme une autre, voilà.
Donc ça te dérangerait pas que les 20 présidents de club, à la fin de chaque match, disent ça?
Peu importe. Non, moi, ça me dérange pas. Après, ce qui est un petit peu moins bien, c'est que quand il parle de...
Le prochain match.
Au match retour, on va s'occuper de lui, machin. Là, il le menace. Donc ça c'est pas très bien vu. Ce côté-là, c'est un peu moyen, quoi.
Ouais, ça me fait penser à Jorietti quand Bordeaux s'était fait balader à Caen.
Ah, exactement.
Jorietti l'avait bien menacé. Exact.
Ça, c'est le genre de déclaration qui passe pas. Après qu'il l'insulte de tarlouse, ouais, bon.
Bah, d'accord. Je pense qu'il aimera pas, lui, qu'on l'insulte de gros porc.
Bah, moi, je pense que ça l'amusera, mais bon.
Oh, ouais, mais c'est surtout que le problème, c'est que il fait ça à chaque fois pour amuser la galerie, mais c'est ouais, comme je l'ai dit, c'est un peu le gros connard, le gros qui comment?
Ouais, voilà, ça fait parler, quoi, mais c'est pas dramatique en soi.
Oui, Jérémy.
Je vois pas où est le problème, quoi.
Oui, Jérémy. Non. Il me semble que tu as réagi. Oui, Julien, il me semble que t'avais quelque chose à dire ça, t'as dit Nicolas, le gros connard, comme Nyang, mais pourquoi?
Ah, pour Nyang, ouais, bon, mais... Déjà, Nyang, j'ai pas précisé ce qu'il est sur Toulouse à la fin du match.
Ah, qu'est-ce qu'il a dit? Dis, rappelle un peu les faits.
Bon, ben, il a dit tout simplement que c'était lamentable de voir une équipe qui vient jouer comme ça en défense au Vélodrome. Bon, moi, je t'ai lui rappelé, bon, mais... qu'on a joué à 10 au bout de la 8e minute de jeu.
Et il a pas tort.
Non, mais il a pas tort.
Ouais, mais il y avait un contexte, quoi.
Là, on jouait à 10, c'était soit ça ou on prenait la tannée, quoi. Donc, je pense que ça lui fait chier que Toulouse a tenu le score, que Toulouse a bien su défendre. Ça lui fait chier que Nyang a pas touché un ballon devant, qu'il a été mauvais. Et il faut qu'il se rappelle qu'avant, quand il jouait à Strasbourg, il y avait des petites équipes qui jouaient, des grosses équipes à l'extérieur, il venait pour rapprocher le point du match nul. Donc, monsieur Nyang, moi, je vais dire honnêtement, j'ai pas peur de dire qu'il ferme sa grosse gueule de merde la prochaine fois. Parce que ça va commencer à me gonfler. Parce que monsieur est mauvais, il a pas touché un ballon, ça l'a fait chier parce qu'il a été cerné par Nunke qui joue en CFA. Et ça l'a fait chier l'année dernière. Ça l'a bien fait chier. Alors moi, je dis qu'il ferme sa gueule. Et que Toulouse, quand il joue à 10 au bout d'une minute de jeu, c'est normal qu'on joue à 10
alors,
derrière.
Tu dis que Nyang n'a pas le droit de critiquer le jeu ultra défensif de Toulouse parce qu'il a joué dans une petite équipe auparavant. Alors moi, j'ai jamais joué dans une petite équipe qui joue à l'extérieur contre des grosses équipes. Donc je vais me permettre de dire que Toulouse, c'est une équipe de merde. Voilà, je vais me permettre de le dire que c'est une équipe de merde qui joue à 10 derrière. Et c'est pas parce que vous êtes Toulousain qu'il faut pas l'avouer, ça c'est vrai. Et vous n'allez pas me dire le contraire. Il y a d'autres équipes en ligne. On a fait tout un pataquès. Nous-mêmes à Génération Soccer, on a parlé de Nancy qui joue à 10 derrière. Oh là là, on s'est fait tuer de tous les côtés sur les topics. Mais on parle pas de Toulouse. Toulouse, l'année dernière, s'est reposée sur un seul atout offensif. Et du coup, on n'a pas parlé. Mais Toulouse, c'est une équipe de merde qui joue à 10 derrière. Et j'en ai marre. On parle de Nancy, mais Toulouse, c'est pareil. Et Nyang, moi, je suis d'accord avec lui.
Ah ouais,
il loue sa gueule, mais il a
T'es d'accord mais avec lui alors? T'es d'accord que fait, Toulouse joue à 10 à l'extérieur?
Ouais, bah, t'es d'accord sur ce coup-là, Roméo. Sur ce coup-là, tu peux pas leur reprocher de jouer à 10, je suis désolé.
Mais oui, sur, mais en plus,
on peut pas leur reprocher de jouer derrière.
Le pire, c'est qu'à la fin du match, il dit que chaque équipe fait ça, qu'il en a marre, comme c'est Marseille, tout le monde vient pour grappiller un point. Et pourquoi contre Toulouse, il s'acharne contre nous, alors qu'il dit justement que toutes les équipes font comme ça. En plus, raison de plus, on joue à 10, donc c'est encore plus normal qu'on défende les trois quarts du temps. Donc c'est un peu bête de placer ça maintenant.
Puis voilà, ils ont une grosse équipe, ils sont censés être supérieurs, voilà, c'est normal. Voilà.
Après, ce que je dis, ça remet pas en cause le fait que Marseille, même si en face il y a une équipe qui joue à 10 derrière, Marseille doit faire le boulot si Marseille doit montrer que c'est l'équipe qui normalement avec le recrutement que Marseille a fait doit viser le titre en Ligue 1. Bordeaux aussi joue contre ses équipes, Lyon aussi joue contre des équipes qui jouent à 10 derrière, mais eux sont les deux premiers Ligue 1. Mais ce que je dis sur Toulouse, ça enlève en rien la contre-performance marseillaise, et Nyang a été ultra mauvais samedi, ça enlève en rien ça. Voilà.
Par contre, je suis pas d'accord quand tu dis que Toulouse c'est une équipe de merde, parce que si Toulouse c'est une équipe de merde, je pense qu'il y en a pas mal qui sont encore plus de merde en Ligue 1, quoi, parce que quand t'as quand même deux joueurs qui sont une équipe de France, quand t'as beaucoup pas mal de joueurs qui sont une équipe d'espoir, je suis pas trop d'accord quand tu dis que Toulouse c'est une équipe de merde.
Quand je t'ai dit une équipe de merde, bon, peut-être que je suis allé un peu loin dans la description, mais je parle d'une mentalité de jeu. Je parle pas de l'équipe en elle-même. Il y a de très bons joueurs comme Sissoko, comme Capou, comme Gignac.
Mais là, je suis d'accord avec toi. Moi, on aurait un entraîneur qui jouerait offensif. Toulouse, on ferait très mal. Mais on ferait très très mal. Le problème, c'est que Toulouse, c'est Casanova, il veut toujours jouer derrière et prendre la défensive. Ce que je reproche à Niang, c'est de reprocher ça quand Toulouse voit 10. C'est soit ça, soit on prend la tannée. Donc, monsieur Niang, la prochaine fois, il regardera une nouvelle fois la physionomie du match, il comprendra que Toulouse joue à 10 derrière, forcément, quand on joue à 10 depuis la 8e minute de jeu. Ce qu'il a fait chier surtout à Niang, c'est qu'en face, il y avait une équipe qui était romagnée en défense, avec Nung et Congré, qui n'avait pas cette Fofana, ça l'a fait chier qu'il a pas touché une bille. Mais c'est comme ça, c'est tout. Toulouse derrière,
il est un peu rageux, Niang, sur les bords.
Ouais. Il pensait s'éclater, mais en fait, voilà.
Non. Mais par contre, Niang râle beaucoup, ça c'est clair. C'est...
Alors à l'image de ce qu'il fait sur le terrain d'ailleurs.
Oui, sur le terrain il râle beaucoup, alors que c'est le premier qui a fait des mauvais choix samedi, qui a fait vraiment, il était méconnaissable. Et en plus c'est le premier à râler, alors que c'est peut-être le premier sur lequel on pourrait crier, parce qu'il lâchait pas sa balle samedi. Après ça reste, il y a Fabien qui nous passe un article, c'est Nicolas qui a été interrogé en juin dernier par rapport à la diffusion du clip contre l'homophobie. Il déclare un clip sur le racisme, je suis prêt à le passer dès demain matin, mais sur l'homophobie, trois petits points. Après, ça sera quoi? Les femmes battues? Avant d'ajouter, si le maire me demande de le passer, je le ferai, mais je préférerais me montrer des filles à poil.
Qu'elle voulait, celle-là.
C'est Nicolas. Voilà.
Voilà.
Oui, il a aussi apparemment, j'ai vu ça sur F365, qu'il ne craint pas de sanctions, quoi. Pour lui, après que il a dit exactement, j'accepterai que Benoît Pedretti porte plainte contre moi, c'est vrai, mais du moment que tout est arrangé avec Auxerre et le joueur, je n'accepterai nullement de sanctions.
Oui.
Bah, c'est des sanctions, c'est à cause du Paris Football Gay, hein, parce que je crois qu'ils vont porter plainte.
Ouais, enfin, ça les occupe.
Ouais, voilà, je vois pas ce qu'ils ont à foutre là-dedans, quoi.
Non, oui. Non. Surtout que c'est Auxerre Montpellier.
Oui, oui, oui. Oui. Jérémy, il me semble que t'avais une info score Ligue 2.
Ouais, donc le Havre qui ouvre le score contre Nantes, et c'est Stéphane Noro qui a marqué, et ça se joue au Havre.
D'accord, merci. Donc, Nantes.
De rien. Ouais.
Donc, qui rajoute? Et ben voilà. Voilà le taser, parce qu'on va changer de sujet. On a parlé de Nicolas, et il a dit qu'il redoutait pas d'être suspendu, mais si on suit la logique du conseil de l'équipe, ça serait logique qu'il soit suspendu quand on sait ce qu'ont pris Comboiré et Gourcuff après leurs petits échanges. Donc on passe au dernier sujet avant le super quiz. Préparé par Jérémy. On parle, on va parler de l'Europe, des clubs français qui nous représentent sur le plan européen. Il y en a 5, Marseille, Bordeaux, Lyon, Toulouse, Lille. On commence par Marseille qui reçoit le SC Zurich demain soir à 20h45 au stade Vélodrome. Il y a au niveau de la tactique Chéroux, on sait que Chéroux sera absent et normalement Marseille, je vois l'équipe probable, ça serait un retour de Teiwo en latéral gauche, Bokali en arrière droit, une charnière centrale Diawara, Ainze ou Diawara, Hilton dans au milieu, donc un milieu Mbia, Chéroux et peut-être Valbuena avec en attaque Kone, Brandao, Nyang. Donc à noter, je pense que c'est quasiment sûr, il a
gagné ses galons. Comment? T'as dit qu'il était absent.
Ah mais mince, je me suis trompé, Chéroux est de retour pour le match. Voilà.
Ah, mais ouais.
Lucho est blessé, il s'est blessé contre Toulouse. Mais à noter le retour de Kone qui est quasiment acquis vu qu'il a excellemment bien joué lors de ses deux dernières entrées en jeu à Nancy et à domicile contre Toulouse. Par rapport au match contre Zurich, je sais pas trop quoi en penser. Je vois une victoire de l'OM, mais
bon, ça devrait passer quand même.
Comment? Ouais, ça normalement oui. Ça devrait passer. Le match aller était quand même assez ennuyant tout de même.
Ennuyant.
Oui.
Ennuyant, oui.
D'accord.
Je pense que c'est l'adjectif qui qualifie parfaitement. Oui, Hugo.
Bah Deschamps a dit que c'était un mauvais match, donc ça doit être plus qu'ennuyant, ça doit être vraiment un match de merde.
Ah oui.
Donc si Deschamps dit que c'est un mauvais match, c'est bien plus qu'ennuyant.
Oui. Oui, bref. Et globalement, je pense qu'on est unanime. Ça devrait bien se passer donc pour l'OM qui reçoit demain à 20h45 le FC Zurich en direct sur Foot Plus. Voilà donc.
Sport.
Ah bon?
Oui.
Ah bah dis donc.
Non. Ah si.
Je pense que maintenant on va plus écouter Hugo pour les sources.
C'est Milan Real.
Ah obstruction. Donc, on va autre match demain c'est du Bordeaux qui se déplace à Munich, c'est un peu plus intéressant si je peux me permettre. Bordeaux qui sera diffusé sur Canal+. Oui.
Voilà.
Donc Bordeaux sur
Canal+. C'est ça.
Comment?
C'est ça, Canal+.
Voilà, donc Bordeaux sur Canal+. Qui se déplace à Munich après un match aller, une victoire 2-1 contre le Bayern malgré deux pénaux ratés, un beau match de Bordeaux qui avait qui était passé sur TF1 et donc match retour à Munich avec peut-être la titularisation de Luca Toni. Je te laisse parler de ce match que c'est toi donc le supporter bordelais.
Ouais, donc côté Bayern on notera la présence sur le banc de Arjen Robben, qui était pas là au match aller, qui d'après Van Gaal, je suis en train de lire ça sur le site officiel, devrait jouer 30-35 minutes. Donc ça ce sera un vrai plus pour le Bayern. Bon, après vraiment il y a un coup à jouer pour Bordeaux qui s'ils s'imposent seront officiellement en 8e. Donc vraiment quand on regarde le match aller, il y a vraiment de quoi faire peur à cette équipe du Bayern. Hein. Sur une sans Robben.
Oui, c'est vrai. Et donc il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire donc demain pour les Girondins de Bordeaux qui se déplacent à Munich. Voilà pour oui Hugo.
Bah Munich sera vaincu depuis le match de Bordeaux.
Ouais, ça fait 2 semaines.
Ah, ça fait 2 semaines, mais avant, ils gagnaient, ils perdaient, ils gagnaient, ils perdaient, donc peut-être qu'il y a un peu de mieux à Munich, je sais pas.
Moi, Munich, ils me font penser un peu à Monaco, enfin, dans le sens où en attaque placée, ils sont, mais alors, super brouillons, mais en contre-attaque, c'est des vraies fusées. Alors, c'est encore plus vrai quand il y a Robben. Et demain, comme d'ailleurs le dit leur entraîneur, c'est un match qu'ils doivent gagner. Ils doivent prendre le jeu à leur compte, ils doivent mettre la pression sur Bordeaux. Et moi, je suis pas convaincu. Je pense qu'ils auront du mal quand même. Donc, à voir. Il y a vraiment un coup à jouer pour Bordeaux.
Oui. Voilà. Voilà pour Bordeaux. Je suis assez d'accord avec toi, Yac. Pour Bordeaux, il y a de quoi faire demain. Allez Bordeaux contre donc on le rappelle contre le Bayern. Juste après, on va, vous inquiétez pas, il y a le quiz. Donc, autre match de Ligue des Champions, Lyon. Lyon qui reçoit, si je me trompe pas, Liverpool à 20h45 mercredi soir. Donc, après une victoire à l'aller 2-1, on le rappelle, grâce à un but de Delgado dans les dernières minutes. On sait que Gerrard est d'ores et déjà forfait. Voilà. Oui. Donc, petit écho assez chiant. On va régler ça tout de suite. Donc voilà, Steven Gerrard qui est forfait pour le match contre.
Ouais, sera bien là, a priori.
Ça,
c'est pas forcément une bonne nouvelle.
Ouais, non, mais bon, il sera pas à 100%.
Ouais, s'il est pas à 100% et qu'il te met le même but que ce week-end, c'est pas une bonne nouvelle quand même.
C'est clair. Mais
quand tu regardes le match aller, tu vois que c'était N'Gog en pointe. Tu remarquais que quand Liverpool était dans ses phases de domination, hormis Kuyt et peut-être un moindre mesure Ben Ayoun, même s'il a été bon dans l'ensemble, c'était quand même super faiblard quoi. Alors, tu mets un Torres au milieu de ça, évidemment ce sera mieux pour eux.
Oui, c'est vrai.
C'est sûr. Parce que Torres, c'est déjà le meilleur buteur de première ligue. Et puis cette saison, franchement, je vois, c'est peut-être le meilleur attaquant d'Europe là, en ce début de saison, quoi.
Oui.
Ouais. Je réfléchis, mais franchement, je vois pas qui d'autre est aussi bon. Même quand il est pas à 100%, il arrive à marquer un des beaux buts. Il est souvent décisif, donc.
Moi, ça fait des années que je dis que seul en pointe, c'est le meilleur attaquant du monde. Peut-être avec Drogba. Il a un volume de jeu, alors, fantastique.
Oui.
Et puis, il fait bien jouer ses partenaires aussi, ça. Son association avec Gerrard est assez impressionnante, quoi.
Voilà. Oui. Donc, voilà pour Lyon, Edouard, je ne dirais pas tes réactions off qui sont assez vulgaires. Donc c'est voilà pour la Ligue des Champions. Je pense qu'on a tout dit. Europa League aussi, de l'Europa League jeudi, Jérémy, ça me fait plaisir. Oui, parce que Toulouse reçoit le Shakhtar après un génial match à l'aller et une superbe défaite 4-0.
Tu peux le dire.
Jeudi, tu seras au stade.
Ouais. Voilà. Et donc, avec la nouvelle pelouse, puisque c'était la catastrophe, donc on l'a refaite il y a une semaine.
Elle est en train d'être posée.
Ouais, donc c'est une nouvelle pelouse toute fraîche, toute neuve, et tant mieux, puisque ça va être une des trois plus belles affiches de la saison, à savoir le Shakhtar. Et donc on aura cœur de se reprendre, vu la tollée qu'on a pris en match aller 4-0. Et surtout que on sait très bien que la qualif va se jouer entre nous et Bruges, ce qui veut dire qu'il faudra prendre les points contre eux absolument. Et si on peut d'ores et déjà en prendre contre le Shakhtar jeudi, ce serait pas mal non plus. Ne serait-ce qu'un point, ça pourrait être déterminant vu que ça risque d'être très serré avec Bruges pour la deuxième place. Donc on est confiant, l'équipe, on espère que ce sera l'équipe type. Il n'y a pas de raison de la retourner. Même si on reçoit dimanche Rennes, donc voilà, on espère. Même si je pense pas que Gignac soit titulaire, le reste de l'équipe devrait ressembler à celui qu'on a vu samedi contre Marseille, et voilà, donc on espère se rattraper et donc tenter de faire le maximum pour mettre chance de notre côté pour se qualifier. Quoi.
Voilà, donc. Essayez aussi de limiter la casse.
Voilà, on va essayer aussi, mais après la petite interrogation, c'est vu que Pelé ne jouera pas dimanche contre Rennes, on sait pas trop qui va faire jouer, soit Blondel pour le mettre dans le rythme, ou soit Pelé, mais bon, si Blondel se blesse jeudi, après on n'est pas dans la merde, faudra appeler le troisième Marc Vidal qui a jamais joué avec les pros, donc je pense que Pelé sera titulaire jeudi soir.
D'accord, et voilà, Blondel, donc, Blondel auteur d'un excellent match contre l'OM.
Ouais, donc on va essayer de le préserver, on va pas prendre de rien, ce serait bête de devoir jouer avec le troisième gardien contre Rennes.
Oui.
Et donc j'en profite pour l'info score du soir.
Vas-y.
Le Havre qui mène 4-0 face à Nantes. Donc doublé de Noro, Benidir et Le Sage. En 20 minutes, ils ont mis 4 buts, donc bravo.
Oui. Ouais. C'est le Brésil, comme dit Fabien.
C'est le Brésil.
Il paraît, ouais.
Et je rigole à peine, hein. Enfin, j'exagère à peine.
Donc, voilà pour... Comment ?
Non, rien, je dis on s'en doute. Bref, oui. Je te laisse enchaîner.
Donc voilà, on va passer à l'autre match, dernière équipe française qui représente la France dans les compétitions européennes. C'est le Lille-LOSC, Lille Métropole, qui se déplace à Gênes, chez le Génois. Après leur victoire, leur super victoire assez surprise et vraiment bien, parce que ça leur permet de se retrouver premier du classement, contre Gênes, 3-0. Donc, bon, je souhaite bonne chance au Lille, on espère qu'ils vont faire aussi bien qu'à l'aller. Pourquoi pas, Romain en soit avec nous, donc...
Ah, mais je leur souhaite bonne chance. Hein.
Ah, c'est beau. C'est beau, là. Oui, Jérôme.
Ouais, je pense que ils sont très surprenants quand tu viens de le dire. Nul contre Valence, victoire contre le Slavia et victoire 3-0 contre Gênes à domicile. Ça m'étonnerait pas qu'ils aillent gagner là-bas, même si ça va pas être facile à l'extérieur. Mais ils ont vraiment l'air de prendre cette compétition à cœur, donc tant mieux. Et bon, voilà quoi. Garcia n'a pas l'air de faire tourner son effectif, il met les joueurs qu'il faut mettre et tant mieux. Donc, je pense qu'ils vont repartir avec au moins un point de ce match. Tant mieux.
Oui.
Enfin, une équipe qui joue.
Non mais faut pas croire que le Genoa c'est n'importe quoi non plus.
Oui, c'est pour ça que je dis que ça va être
pas si évident que
difficile. Valentin, présente-toi.
Bonjour, je m'appelle Valentin. non, bon, c'est Helvetia, donc. Non mais le Genoa, c'est une super équipe qui a connu un petit passage à vide ces 2-3 dernières semaines, bon, où il y a eu la défaite contre Lille à l'aller, il y a eu le 3-0, donc il y a eu quelques découvertes dans le championnat. Mais là, ça semble plus ou moins reparti. Ils ont fait 0-0 hier à Palerme, et à Palerme, c'est toujours très compliqué de jouer, et donc ils ont vraiment des bons joueurs, et si l'équipe se retrouve un collectif qui puisse complètement aller avec des joueurs qui arrivent à se distinguer comme en début de saison, à mon avis pour Lille ça peut être très très compliqué, parce que le Genoa c'est vraiment une super équipe qui joue super bien en foot, et faut vraiment les voir. Il y a du gardien aux attaquants, il y a vraiment des individualités qui forment un collectif qui est super.
Oui. Voilà, comme tu le signales, faut pas oublier que c'est les Genois et qu'il reste une belle équipe. Ça sera difficile pour le LOSC d'aller chercher déjà un point. Comment s'appelle le stade du Genois d'ailleurs, Valentin ?
Marassi.
Voilà, merci, au stade Marassi. Voilà.
Oh. Voilà, non.
C'est pas au stade Marassi, c'est à Marassi tout simplement.
Ah pardon, j'avais une chanson de... Voilà, au stade Marassi.
En fait, à la base, en fait, le nom officiel, c'est Luigi Ferrari. Le stade Luigi Ferrari, c'est le stade de Gênes. Mais le nom plus commun, c'est Marassi.
Voilà. Donc voilà, merci Valentin. On va pouvoir passer au quiz, messieurs, dames. Le quiz que vous attendez tant. On est combien ? On est 6. Il y a Fab.
Ah, ça fait plaisir.
Il y a Fab le Modo et Fab le Monégasque. Il y a aussi Hugo, Valentin, Yak et moi. Ah non, l'ancien Modo. Mais non, oui, enfin, Fab le Modo et Fab le... Donc, tout de suite,
le quiz.
Bienvenue sur Génération Soccer.
c'est pas une radio de cul, hein, Marvolo.
24h sur 24, 7 jours sur 7. Ça, c'est de la radio.
C'est pas une radio de cul, voilà. Donc, c'est pas une radio de cul. On va faire un quiz tout de suite. Vas-y, Jérém, je te laisse tirer au sort les équipes.
Ok, ça marche.
De l'huissier, mettre en culos.
Et au sort les équipes.
Écoutez, soit vous vous démarrez ou soit je tire au sort quand vous.
Ah bah tu tires.
Valeur à celui qui tombe avec Roméo.
Ah bah il gagnera comme hier et avant-hier.
Donc Roméo.
Je suis. Attends.
Est-ce que Cénote est là ou pas?
Non, il n'est pas là.
Ok, donc.
Enfin, allô, Cénote, peut-être qu'il est là. Non, il est pas là.
D'accord. Bon ben, Cénote avec Hugo. Donc la paire.
Aïe,
c'est notre, t'es pas là.
C'est là que tu vas blesser.
Toi plutôt, je vais dire. Roméo avec.
Merde. Pas de colle. Mais pourquoi tu m'as donné ça? Pourquoi?
Je m'excuse.
Elle c'est à moi qu'il faut que tu t'excuses, oui.
Non. Non. Tu m'as le pas toujours là.
LVC avec Yak.
Ok.
Et les deux Fabien ensemble.
Ah, les deux Fabien ensemble, comme ça, il y aura pas de problème.
Et ouais.
Salut donc, Fabien.
Tirage qui arrange quand même.
Donc le compte est bon. Donc voilà. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 15 questions, ça fait 5 par équipe. C'est sur
rien
la
sur Ronaldo, ça va?
Comment?
Rien sur Ronaldo.
Rien sur Ronaldo. Et donc 5 par équipe. Et ça remonte, c'est des années 2000 de la Ligue 1 à aujourd'hui. Donc il y a des questions de culture, tout ça, sur les entraîneurs, leur carrière. Il y a aussi des citations qu'il faut retrouver qui c'est qui a tenu ces propos-là. Et voilà, donc vous allez voir. C'est... On va commencer par Roméo et Hugo. Are you ready?
Non.
Non.
On peut commencer dans une demi-heure. Tu nous poses la question, tu donnes la réponse.
Eh ben, pas de problème, donc à tout à l'heure.
Pas de problème.
Non, vous avez droit à une dizaine de secondes de concertation pour pas...
Ouais, c'est une connexion assez moyenne. Donc Wikipédia, ça va ramer.
Ah, mais on a les deux pires connexions de la radio, donc je pense qu'il n'y a pas de...
la fibre optique, c'est pas par là, donc.
Non, c'est Flo.
Allez, c'est parti. Donc, Roméo, Hugo, première question. Donc, à 5 saisons près, combien de saisons en Ligue 1 a connu l'OL? Donc, Lyon.
Attends, Hugo, attends, on va réfléchir.
Franchement, c'est pas dur.
Calcule-moi. 7, ça fait 3.
Attends, pourquoi tu me parles de 87?
Je crois que vous montez par là. Je crois. Ah, je dirais 22 ans au hasard.
Non. En première division?
Oui, en Ligue 1, ouais.
Bah vas-y, je dis 22 ans et puis c'est tout.
Non. Moi, je dirais...
Ah, c'est bon, là, ça fait tard.
Oui,
ok,
faut...
22 ans. Comme tu veux.
Eh ben, non, pas du tout. C'était 51 saisons.
51 saisons? Fous-toi pas de ma gueule.
Ah, ils ont eu une vie avant Olas, hein.
Non mais attends, je vais te sortir ça gros.
Bon allez,
bref, 0 points, c'est tout ce qu'on retiendra.
Si vous, je vous envoie le lien sur Skype.
Non mais t'inquiète.
Donc 0 points, donc désolé. On va passer à l'équipe Yak Helvetia.
Maintenant que tu nous as envoyé le lien, tu peux nous faire ça pour d'autres clubs. Hein.
Non, j'ai tout prévu. Donc Yak, êtes-vous prêt, Helvetia Yak?
Oui.
Ah oui. Vas-y.
Alors, combien de... C'est quoi la musique là-haut? Faut déconcentrer l'adversaire.
Non, c'est vraiment chiant.
Ouais, j'avoue, c'est vraiment chiant.
Dan nous fait une défaite.
On n'arrivera jamais à la placer, cette musique.
Il se rebelle, ouais, c'est bon. Alors, Yak Helvetia, question. Combien de matchs Giroud a-t-il passé sur le banc de l'Ajaxer à 50 matchs près?
Oh là là, je me demande si c'est pas autour des 600 et quelques.
Parce qu'attends, il a fait combien de saisons? Genre une quarantaine?
Bah tu veux tout tout championnat confondu?
Exact, ouais, toute compétition ouais. Sur la Gioxer.
Compétition.
Ah bah alors je sais pas, c'est beaucoup plus donc
championnat de France en Ligue 1 quoi.
Attends, championnat de France ou
championnat de France en Ligue 1, en Ligue 1, excusez-moi.
Ah, seulement Ligue 1.
Ouais, voilà.
Ah donc oui, donc je pense que c'est autour des 600 700.
Tu rigoles? Mais c'est plus autour des 2000.
Non, il a dit en Ligue 1 seulement.
Bah oui.
Je sais pas.
En Ligue 1 ou avec
600 matchs, c'est le nombre de matchs de Guy.
Ah ouais, trop.
Non, ouais, il a pas passé 40 ans à moi. Enfin bref.
Là, c'est le même nombre de matchs. Non, 700, non, ouais. Oh, tu veux dire quoi?
Pour vous aider, il a entraîné Auxerre de 1980 à 2000, puis de 2001 à 2005.
Ouais, donc
Donne-leur la réponse aussi, non?
1350. Bah, 1350, mais.
C'est votre réponse?
Vas-y, ouais.
Eh ben non, c'était moins, c'était 890.
Ah, tu vois.
C'était pas évident.
Ah, j'étais pas là. J'étais pas trop loin quand même au début. Non, mais c'était... je me suis dit, ouais, Maldini en 20 ans, il a fait 700 matchs en toute compétition, dans 900 et quelques toutes compétitions confondues, donc ouais.
Donc on retient juste un truc, hein, 0.1, hein, yak.
Mais tu dis, attends, mais il a entraîné au CERF depuis quand, t'as dit 80?
80 à 2000 et de 2001 à 2005.
Au moins 1965, un truc comme ça.
Ah non.
Non mais il veut en Ligue 1 seulement. Ligue 1 seulement.
Ah ouais.
En fait, ouais, okay. Ça aurait pu être un peu plus simple. Vous aurez fait 1980 à 2000, il y a 20 saisons. Et de 2000 à 2005, il y en a 4. Vous faites 24 fois 38 environ, ça fait 900.
moi, je calculais en tout, quoi, pas que en Ligue 1.
Ah d'accord. Enfin, bref. C'est pas grave. Donc, on va passer à l'équipe Fab au carré.
Oh là là, ah, tu sens l'esprit de scientifique là.
Là ça mérite
ça y est. Ça a dépoté.
Alors.
Bonjour Fab au carré.
La question est la suivante. Lors du mercato 2008, un record de dépenses a été établi. À 40 millions d'euros près, combien ont-ils été dépensés?
En Ligue 1?
Total.
Ouais, lors du mercato 2008.
À 40 millions près.
Ouais.
Pense à quoi toi, Fabien?
Moi perso, je dirais bien 120. Parce que bon, voilà quoi.
120, sachant que ouais, il y a eu quoi comme achat? 120, ça me paraît pas assez. À 40 millions.
Ouais.
Franchement, tu tapes le 150, je pense que c'est mieux en fait.
C'est à 40 millions près de toute façon, enfin comme tu le sens. Hein. Vas-y, au pire, on coupe la poire en deux, quoi.
Allez, on va dire 160.
Eh ben, c'était 244 millions d'euros. Oh, donc, c'était vraiment... c'était l'année où...
On retiendra un truc, c'est zéro. Voilà, zéro pour un, passe à l'autre.
Ouais. Voilà, zéro pour tout le monde, donc pas de jeu. Voilà, c'était les questions avec une fourchette de chiffres à donner. Donc maintenant, on va passer aux questions.
Pas une fourchette, là. C'est une...
C'est un râteau, comme dirait Gad. Ouais. Donc,
Vas-y.
La question pour Roméo Hugo.
La question quoi?
Êtes-vous prêt? Ouais. Donc, quel est le meilleur buteur de la Ligue 1 encore en activité dans notre championnat?
Mamadou Niang. Allez, on passe. Allez, au suivant. Merci, au revoir.
Contact, c'est bien ça. Donc, il a marqué 88 buts, 8 à V3. 21 avec Strasbourg et 59 avec Marseille.
Ah, bien joué, quand même, bien joué.
J'avoue, c'était pas évident. Enfin, c'était pas évident.
Non.
Bah, si, attends.
Non, c'était dur, quand même.
Ça tombe sur Marseille, donc, ça, c'était pas prévu.
Donc, ah non.
Ouais, à chaque fois qu'il marque un but, oui, c'est le meilleur buteur en activité.
En plus, on peut envoyer des trucs par PayPal, par Skype, je crois.
Ouais. C'est pas con ça. Donc Helvetia Ajax, question pour vous. Combien de clubs en Ligue 1 Roland Courbis a-t-il coaché?
Ça tourne autour de quoi, 8-9 je pense.
Alors là au
en Ligue 1 seulement.
Alors moi en Ligue 1
il lance.
Bon, moi je dirais
peut-être moins, beaucoup moins. Ouais.
5-6 plutôt ouais.
Ouais, 5.
On peut les aider.
Ouais. Bon, vu que c'est difficile, ouais, c'est 5, bravo. Franchement, bien joué.
Et voilà, superbe.
Il a entraîné
un peu facile, une question pour un Servetien, hein.
Ah ouais.
Il a entraîné Sporting, Toulon, Var, Girondin, Bordeaux, Marseille, Ajaccio et Lens. Question, donc un point pour vous, donc pour l'instant un point pour Romeo Hugo et un point pour Alvesia Yac. Donc pour les Fabiens, donc depuis quelle année le championnat de France de football est-il devenu Ligue 1? C'est l'appellation. Non, je vous donne une année.
C'est Ligue 1 Orange, ça n'existe plus.
La Ligue 1.
Je crois que c'est 2001 ou 2002. Je crois que c'est 2002.
C'est Nantes qui a gagné la première édition, non?
Bah ouais, c'est ça, c'est 2002. Bravo, bien joué.
Ah, 2001-2002 alors.
Bien joué.
C'était 2002. Okay. Donc ben bravo, tout le monde a mis un point dans cette manche. Donc pour Romeo Hugo, quelle place occupe le championnat de France au niveau des richesses récoltées grâce aux droits TV et au merchandising, donc en Europe?
C'est déjà la première ligue, l'Espagne, par déduction. La Serie A, c'est derrière, c'est sûr. Merchandising.
L'Allemagne, hein, avec leur naming du tout.
Merchandising, tu dis?
Merchandising et droit TV. Les deux.
Ouais, je dirais, ouais, cinquième.
Cinquième, quatrième, bon, tu me laisses
non, cinquième, pour... cinquième. Ouais, je dirais cinquième.
Attends.
Non, pas Wikipédia, cinquième, allez.
Non, on disserte.
Disserte sur Google. Allez,
tu te dissertes.
Bon, une réponse quand même.
Cinquième. Cinquième.
Renaud, le dernier mot, c'est bon.
J'ai dit cinquième, putain de merde.
C'était quatrième.
Bah voilà.
Bah ouais, parce que l'Allemagne est derrière.
L'Allemagne est devant. Le classement, c'est Angleterre, Espagne, Allemagne, France, Italie, Pays-Bas.
Ah ouais. Ah d'accord.
Ça sentait la question de piège, va.
Ouais, mais tu vois, je préfère donner une réponse honnête et pas attendre. Attends, Google, là, ça s'affiche. Oh, attends, je tape entrée. Oh, c'est... Non.
Arrête, on sait très bien que tu le fais quand même.
Non, mais voilà, quoi. J'ai dit 5.
C'est pas la peine de tricher, de toute façon, entre nous. Donc,
c'est clair.
Donc, voilà, question pour LVC Ayak. Quel a été le premier club français à attirer un investisseur étranger, donc en Ligue 1? Étranger, donc dans le championnat de France, Ligue 1 ou Ligue 2?
Alors là.
Frédéric Intrager qui a pris possession du luxe.
Tu peux dire l'année des fois?
C'était en 2004.
Intrager?
Je dirais, non.
Qu'est-ce que t'entends par Intrager?
Nazaré, je vois pas. Voilà, ouais, là comme ça, j'aurais eu tendance à dire Nice aussi. Vas-y, dis Nice, mais je sais pas du tout. Ouais, je pensais à Grenoble aussi, mais 2004, je crois qu'il est en national.
Je pensais à tout le monde en fait.
Ouais.
Vas-y, je pensais à Lens aussi.
Je t'ai accordé.
Non, Lens, ça reste.
C'était Grenoble. Je te l'accorde parce que j'avais pas précisé national aussi, donc c'était en 2004 en effet. Donc c'était. Le gros.
Ouais, sinon j'aurais dit Grenoble si t'avais dit national.
Ouais, non, mais j'avais pas calculé que à cette époque. Ouais, donc il s'agit.
Mais c'était quoi la question? Premier investisseur étranger.
Le premier club français qui a attiré un investisseur étranger. Donc c'est la société Index Corporation japonaise.
D'accord.
Donc un point pour vous et on passe à Fabien et Fabien. Donc ouais. Qui est l'auteur du hat-trick le plus rapide dans l'histoire de la Ligue 1?
Trop facile.
Jean-Luc Maurice.
Moi, je vais peut-être passer pour un con, mais j'aurais dit Pauleta.
C'est votre réponse?
Je sais pas, voir avec l'autre Fabien, mais.
Je sais plus.
Franchement, c'est Brando, hein.
Bon, ben, il faudra une réponse.
Non, ouais. Mais c'est bon, là.
Vous me dites.
On a perdu Fabien au carré. Ah non, moi, je reste sur Paoletta.
Bon, ben...
Ah, vas-y, sur Paoletta, mais... Je pense pas que ce soit Paoletta, mais j'en sais rien.
Google n'est pas d'accord, je crois.
C'était le seul, l'unique, le grand Matmoussilou.
Matmoussilou. Oh, mais non.
Mais oui, 7 minutes,
quand il était à Lille,
Bah ouais, mais c'est normal, il était à Lille, comment tu veux que je sache.
Il avait marqué
3. Ah ouais, c'était pas contre 8-0 là, ils avaient mis
contre un but à un moment. Ouais, voilà. C'était contre Istres. Donc en 5 minutes, il a marqué 3 buts. C'était de la 13e à la 18e minute.
Ah mais c'est une question piège.
Il a atteint ce jour-là son apogée.
Il y avait des joueurs en face.
Là, c'était Istres, donc
obstruction.
Ah ouais. OK.
Donc ouais, 0 point pour vous.
Lève un carton jaune. Sur Jérémy Ménez.
Il a dit 5 minutes.
Non mais de toute façon, c'est faux, ils ont pas trouvé. Donc on s'en
Oui, de toute façon, on s'en branle. Ouais.
Hugo,
tu retournes dans ta cabane là et tu fais
Hugo, tu viens de me niquer ma prochaine question.
Il est con. Bah vas-y, tu la poses quand même.
Le plus jeune, c'est ça. Le plus jeune à avoir fait un triplé.
Ouais, voilà, bah tu viens de me niquer ma question.
Bon, voilà, un point pour nous. C'est super.
Non, je crois que c'est Jérémy Ménez.
J'en avais prévu.
J'en
avais prévu une de ce.
Ah, mais il prévoit.
Il prévoit tout.
Et quel beau gosse, mec.
Il est très fort, il est très fort.
N'allons pas trop.
Donc, Roméo Hugo, donc écoutez bien.
Jérémy Ménez.
Depuis quelle année Thierry est-il le président de la Ligue Football Professionnelle?
C'est moche.
Depuis trop longtemps.
Je crois que c'est depuis l'époque.
Bon, je pense que la réponse depuis trop longtemps, on peut accorder le point.
Oui, mais bon.
Ouais, Frédéric Thierry.
Allez, vite, une réponse.
Ça, je dirais 2002, quand la Ligue est devenue professionnelle.
Ben oui, c'est ça, 2002.
Ah bon, donc,
c'est peut-être en cohérence.
Pas mal, pas mal.
Et puis, faut du bois des emmerdes, quoi.
Ah oui, tu peux dire.
C'est vrai que là, j'ai des doutes, mais bon. Ouais, donc, pour l'équipe Helvetia Ajax.
Ça fait combien le score, là?
Ça fait, vous avez 2 points. Helvetia Ajax en ont 2. Et Fab en ont 1, mais ils ont une question en moins.
Alors,
Helvetia Ajax.
Moins.
Quel joueur a gagné 2 Coupes de France consécutivement, Auxerre en 2005 et PSG en 2006, en marquant à chaque fois un but en finale?
Oh, trop simple.
Calou.
C'est quoi?
Bonaventure.
Bah oui.
C'est ça.
Exact. Ouais. C'était la petite simple pour vous. Donc voilà. Non, c'était bien Calou. Donc bravo.
Ah non, moi je l'ai trouvé très très dur.
Moi j'ai bien aimé.
Donc,
Même pareil que le record de défaites d'affilée.
Ouais, exactement.
Donc pour les deux Fabien maintenant. Donc je vais vous donner une fourchette de 2 points. Donc la question c'est
ouais.
Quel a été le plus grand écart entre le premier et son dauphin en Ligue 1? Donc c'était en 2007-2008 quand Lyon avait devancé Marseille. Combien de points?
Je crois que c'est 15 ou 17, entre 15 et 17. L'autre Fabien, je sais pas ce que t'en penses. Je crois que
c'est entre le premier et le deuxième, c'est ça?
Ouais.
Dans la saison. Ouais, peut-être.
Ouais, bah c'est ça, c'est 17 en fait.
Ouais, je me
suis... Ah mais attends, ils ont dit entre 15 et 17, ils ont pas donné leur réponse.
Oui, mais j'avais donné une fourchette de 2 points.
La fourchette de 2, donc...
C'est 2 points, c'est...
Et donc voilà, donc bien joué. Donc ça fait Fab et Fabien, vous avez 2 points. Helvetia Ajax en tête avec 3 points. Et Roméo Hugo avec 2 points. Et je vais passer maintenant aux citations. Donc je vais dire une citation d'un joueur, entraîneur, président. Et vous allez devoir me dire qui c'est qui a déclaré cette phrase.
Nicolas.
ça serait trop
Donc ça va être chaud, je sens.
Je vais changer parce que...
Je rappelle que je suis le tenant du titre.
Oh, c'est bon, on va le savoir.
Plus pour très longtemps. Non, je sais pas. Donc pour Roméo et Hugo.
Mm-hmm.
C'est parti. La meilleure chose à Lyon, c'est la rocade. La rocade Est, elle permet d'éviter de passer devant Gerland.
Je sais
pas. C'est vraiment dur. J'avoue, c'est difficile. Mais bon, vu que vous avez une
salle. Attends, on va dire un bon Stéphano.
Je dirais monsieur Cayazo.
Ah, Romeyer, ouais, c'est.
Je dirais Cayazo.
Vas-y, Rome, je te laisse choisir.
Cayazo.
Non, c'était Patrick Rivelli, donc, l'ancien joueur de Sainté.
Ok, merci.
Le type, il va nous sortir des citations de 1984 dans La Voix du Nord.
C'est... Voilà. Après, il va nous demander quel est le prénom du chien de George Best. c'est ce qu'il a dit juste avant de mourir, hein, moi aussi.
Donc, bon, tu... t'as vu, en off, il a fait genre, il a préparé à l'arrache et tout, mais...
Mais oui.
Donc,
il est tordu, ce petit.
C'était pas évident. Donc, maintenant...
Non, non, pas non.
Pour Helvetia Yak, qui a l'occasion de gagner le quiz sur cette question. Alors, être un mar...
Un petit jiggle suspense, là, non?
À la pression qu'ils nous mettent, c'est insoutenable.
Le jour où j'aurai de la pression de Roméo, franchement.
Alors, c'est parti. Arrêtez, franchement. Donc, c'est parti. Être à Marseille, c'est vivre en permanence sur le qui-vive. Être soumis à l'arbitrage des incompétents et des nuls. À Marseille, on ne vous passe pas grand-chose.
T'as une idée?
Alors, peut-être monsieur... non, qu'est-ce que... Peut-être un habitant de la du quartier des quartiers nord, je sais pas. N'importe qui, hein. Peut-être même moi qui a dit ça, je sais pas. Attends, répète la phrase.
Ouais, vas-y, répète, tiens.
Être à Marseille. Oui. Être à Marseille, c'est vivre en permanence sur le qui-vive, être soumis à l'arbitrage des incompétents et des nuls. À Marseille, on ne vous passe pas grand-chose.
Ça, c'est du suspense.
Bon, Dicky.
Un petit au pif, c'est pas dur, hein, je vous préviens.
Je bon, c'est bon, Brandao.
Drogba, vas-y, cache.
Oui. Bah, on va dire... on sait rien.
Drogba, dis Drogba, c'est marrant.
Fab Diouf,
c'est dit. Ouais.
Ouais, bah c'est lui, voilà. Donc c'était Fab.
Oh non, non, mais non.
Ah, non, la pression. Hein, mais il y a du répondant derrière.
Ouais, c'était trop long.
Bon, ben la dernière pour Fab et Fab, même si Helvetia Yak qu'on gagne le quiz. En plus, ça doit être facile pour un des deux Fabiens. C'était l'année.
C'est bon, on veut pas que leur système.
Donc voilà, c'était cette parenthèse automobile. Et donc Fabien, écoutez bien. Celui qui n'a pas envie de bosser, qui n'a pas de la joie de venir s'entraîner, il m'énerve un peu. Je sens qu'il y a une paire de joueurs qui veulent mettre les voiles, qu'ils partent pour ne pas nuire au groupe.
T'as pas exclu le mauvais, là?
On se le demande.
C'est Brandon. Alors,
la réponse.
Ouais, j'aurais bien dit Jean-Guy Wallema.
Et non, c'était Yoann Demont.
Ah, mais ouais, mais les deux, ils ont ouvert leur gueule.
Et vous avez, et c'est Fabien le lancement plus qui a été viré, donc.
Non, 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 non.
Ah, d'accord, merde. Bah, bah, ah oui, oui, c'est vrai, non. Excuse. Ouais, donc, ouais, c'était Yoann Demont, c'était, bah, l'année dernière en Ligue 2.
Donc, ouais, mais il y a Wallem qui a dit à peu près la même chose en début de saison.
Ouais. Ouais. Ouais.
Je me défends.
Tu fais bien.
Je me défends, mais j'ai perdu.
Bon, ben, les vainqueurs du quiz sont Helvetia Yak avec 4 points.
Quelle grosse surprise!
Devant les duos de Fabien avec 3 points. Et la lanterne rouge, Roméo, qui retrouve son poste habituel.
Avec... lanterne rouge, on est deuxième.
Non, vous êtes troisième.
Non, on est deuxième.
Vous êtes dernier.
On est deuxième.
Attends, tu nous as donné en citation?
Si, bah, si tu triches, hein, vas-y. Bonsoir à tous.
Allez, à plus.
Sur Génération Soccer, on se retrouve bientôt. À l'antenne.